Hey, bonsoir tout le monde et bienvenue au 21e épisode de Divan Quest. Divan Quest, à ne pas confondre avec Lucienne's Quest, qui, malgré son nom, n'est pas la quête d'une grand-mère qui doit aller chercher des Paperman en spécial chez Wolko, mais bien un RPG pour 3DO et Sega Saturn. Ça nous ressemble beaucoup, ne serait-ce que dans sa capacité à nous rappeler qu'il y a beaucoup trop de choses qui portent le nom de Quest.
Ou de Lucienne.
Je suis Mathieu Bonin, toujours en compagnie de Danny Gravel.
Salut!
Et de Jean-François Laporte.
Salut!
Comment allez-vous?
Ben, ça va... Tu sais,
hein, c'est...
les bourgeons pis tout, là.
Hey, j'aimerais pas être dans vos culottes, hein. Ben, first, je rentre pas, là. En tout cas, fait, qu'est-ce que vous avez fait de beau cette semaine? Danny, mais que tu finisses de célébrer...
De célébrer que tu rentres pas dans une mi-culotte, là.
Hypothétiquement, mettons.
Quand je suis là. Hey!
Commence bien.
Ça commence bien. OK. Ben moi, cette semaine, j'ai rempli mon questionnaire long de recensement le soir où le dernier podcast est sorti. Fait que je merci.
Monsieur Justin J.P. Trudeau.
Just watch me.
Je pensais que t'allais nous faire jouer le level up que t'avais avant,
Ben non. Fait que merci à Monsieur Trudeau pour la belle soirée. En même temps, c'est quand même drôle. Sans joke, là, c'est le genre de truc qui aurait fait hurler les gens il y a comme pas si longtemps, là. Puis récemment, là, j'ai vu quand même des posts passer de gens sur Twitter qui étaient déçus d'avoir la version courte. Je pense qu'on peut remercier là, les 10 ans d'obscurantisme harpérien de ça.
Je pense que tout est un argument à cette heure.
L'expression est intéressante, l'obscurantisme harpérien. Ouais,
c'était le moment intelligent du podcast. J'ai l'air de retrouver mes mots à cette heure.
Qu'est-ce que c'est?
Fait qu'à part de ça, mettons, si on parle de gaming... Là,
Ben j'ai continué des jeux que j'avais commencé. J'ai pas eu beaucoup de temps pour jouer à des nouveaux trucs, en fait. Jouer un tout petit peu à un jeu sur mon cellulaire, le Dungeon Boss, qui est intéressant. Là, ça y réinvente rien, là, c'est... Je vais probablement me tanner d'ici deux semaines, mais pour l'instant, je joue un petit peu. En gros, là, c'est un RPG où est-ce que tu as différents personnages qui ont des habilités là, de différents types, là, genre feu, nanana. Mm-hmm. Puis tu te promènes dessus du monde. Ça ressemble pas mal au jeu de Star Wars que j'ai déjà parlé, le Galaxy of Heroes. Mm-hmm. Un peu le même concept. Fait que je sais que je vais me tanner dans deux semaines, mais entre-temps, je trouve que ça se joue bien avec le cerveau à off devant la télé. En gros, ben, c'est ça. Mathieu pourra confirmer, je pense, qu'une fois rendu au mois de mai, un prof, ça planifie sa fin d'année, ça corrige intensif, puis ça a plus de vie.
J'ai déjà été témoin de ça, oui, ouais, effectivement.
Ça. Sinon, dans House Gaming, je suis allé voir Civil Wars.
Civil War, oui.
Oui, War. Je sais pas pourquoi j'ai dit War. Civil War. Faites-vous-en pas, là, je vais pas rien spoiler. Sauf que c'est quand même vraiment malade, le bout, parce que Abraham Lincoln tire son bouclier en pleine face de Jefferson Davis. Là. Je comprends toujours pas, par exemple, pourquoi Iron Man est pour l'esclavage. Je n'ai peut-être pas suivi, je sais pas.
Hein?
Je termine ça avec une petite punition auto-infligée à moi-même. Je me suis rendu compte que dans le dernier podcast, j'ai dit que si on veut, à peu près 12 fois en dans 2 minutes au début de l'épisode. Fait que, come on, Dan, fais attention.
Franchement.
Ouais, je sais. Puis je finis ça sur une nouvelle toute fraîche. Mais toute fraîche pour moi. Là, en tout cas, j'ai vu passer ça aujourd'hui même, là, quand on enregistre le podcast le 19 mai. On a en fait une date pour la sortie du RPG I Am Setsuna. Oh. Pour ceux qui n'ont absolument pas suivi, c'est un RPG de style très très rétro. Inspiré beaucoup là, comme même pratiquement copié de Chrono Trigger. En fait, ça appartient à Square, fait qu'ils peuvent bien se copier eux-mêmes s'ils veulent. Du combat tour par tour, des techniques qu'on apprend là, en avançant, des techniques doubles, triples, fait que même des techniques qui sont les mêmes que dans Chrono là, avec les mêmes noms là,
sans random encounter.
Je sais pas, j'ai pas regardé à ce point. Bref, c'est sorti déjà au Japon, ça va sortir le 19 juillet. Ici là, sur PS4 puis sur PC, ce sera un de mes jeux de l'été, c'est certain. Toi, Mathieu?
Ben en fait, avec notre collègue ici présent, Monsieur Laporte, jeudi dernier,
oui, jeudi.
On est allé faire un tour finalement à Arcade Montréal, le bar et non pas le local dans le bas. le bar cette fois-ci.
Et non pas le trou.
Voilà, pour la première fois, puis c'était cool, belle expérience.
Non, super le fun, pour elle, il y a beaucoup de monde.
Mm-hmm. Et malgré ça, il y a de la place en masse.
Oui, bien en fait, moi, c'est beaucoup de commentaires que j'avais eu de mes amis qui étaient déjà allés. Ils disaient qu'il y avait tellement de monde que tu ne pouvais jamais jouer parce que les machines étaient toujours occupées, puis j'ai pas eu ce problème-là. Oui, les machines sont occupées, mais
en tout cas,
gens
next,
sont, ben, c'est ça, le monde sont super... super open, puis on sait sa place. On s'est gâté à Frogger puis Dig Dug.
J'aurais pas utilisé ce terme-là, mais c'est fait. Ouais, on s'est joué des petites games, puisqu'il y a une table cocktail, une arcade table. Puis justement, on a pris un peu de temps, puis en cherchant les jeux que l'écran flippait convenablement d'une partie à l'autre, ben, il y avait justement Frogger et Dig Dug. C'est toujours le fun, justement, de redécouvrir ces jeux-là. On les connaît, tu joues 2-3 minutes, puis tu fais comme, bon, ben, tu sais, c'est pas de ma jeunesse, j'ai pas de nostalgie, j'ai pas tant d'intérêt, puis tu passes par-dessus, ou dans une cassette 31 jeux au Nintendo. Là. Mais là, de vraiment y donner du temps, puis d'essayer de pogner le score. Ça, tu découvres une profondeur. T'sais.
Mais une cocktail table dans un bar, c'est...
Oh,
c'est la place.
C'est la place.
Ah, la bière sur l'écran. Puis... puis comme toutes les fois qu'on va chez Arcade Montréal, lui, il l'avait avant, ils l'ont encore. Un gros highlight pour moi, c'est ben, juste avant de partir qu'on a joué à Windjammer sur la Neo Geo.
Yes!
C'est un classique. Selon... C'est
un classique depuis la première fois qu'on y a été puis tu l'as découvert. Parce qu'on s'en
j'ai découvert là. C'est mon classique d'Arcade Montréal. pour vrai, c'est juste trop le fun. Là.
C'est vraiment écœurant, le... La hype que ça crée, là, l'intensité des games.
Pour ceux qui savent pas c'est quoi, parce que c'est quand même un jeu qui est assez obscur. Là, c'est un jeu de frisbee, c'est un peu comme un jeu de air hockey.
Ouais, c'est un jeu de frisbee extrême compétitif. Là. Ouais. C'est vraiment débile. Mais à la sauce Neo Geo, là, donc c'est tout est over the top, mais c'est vraiment le fun. Puis il y a une profondeur là, aux décisions que tu prends sur le jeu. Puis... Bref, c'est à découvrir comme jeu. Puis ben, dans le gaming, ça a été pas mal ça pour moi. En fait, non, c'est vrai. J'ai fait l'acquisition d'une pièce complètement inutile, mais qu'on veut tous dans notre collection de rétro. J'ai maintenant un Power Glove qui va rester sur une tablette à tout jamais. Bon, peut-être l'essayer une fois ou deux, là, mais c'est juste vraiment cool à avoir. Ça, on a tellement fantasmé sur ces bébelles-là qui, ultimement, n'en valaient pas la peine. C'est un symbole plus que d'autres choses, mais je suis vraiment content d'en avoir un, finalement. Fait que c'est pas mal juste ça pour moi cette semaine. Jeff?
Ben écoute, moi, à part, ben, tu sais, on est allé jeudi dernier chez Arcade Montréal, mais la fin de semaine, juste avant ce jeudi dernier-là, je me suis un petit peu évadé du travail. Puis ça, j'étais en vacances, passé un long week-end de 4 jours à Toronto. Qui dit week-end à Toronto dit 6h30 de route. En fait, nous, c'était de voie ferrée, on est monté en train pour y aller. Donc, j'avais beaucoup de temps pour gosser sur mon cellulaire, je pense. J'ai joué avec deux petits jeux en chemin pour passer le temps. J'ai un jeu qui s'appelle Inks, qui est disponible sur iOS et Android, si je ne m'abuse. Tu te rappelles un petit jeu qui a sorti qui s'appelait Lumino City, qui est un jeu genre tout avec fait en papier. Là,
oui, ben oui. En fait, il y avait Lumi, puis il y a eu Lumino City après.
Ça se peut.
Oui.
Mais c'est pas le même développeur, en fait. Donc, c'est un jeu, Lumino City, qui avait un artwork intéressant. On ramène ça, mais Inks, c'est un jeu de pinball. Avec des tables qui sont super simples, c'est pas les jeux classiques là, avec toutes les bumpers puis tout dans le milieu de la table. C'est des tables minimalistes, comme beige, comme petit fond un peu comme papier si on veut. Puis la boule dans le fond, elle fait des traces d'encre quand tu l'envoies. Okay. Puis le jeu, c'est il y a comme des passés de couleurs, puis c'est de frapper les passés de couleurs pour mettre de la couleur sur ta boule, puis peinturer la table. Puis il faut juste frapper chacune des passés une fois, mais tu fais plus la table est belle, plus tu fais de points. Donc, tu fais un peu un genre de art game qui est une super belle introduction au jeu de pinball. Pour ceux qui sont pas familiers avec ça ou qui veulent un jeu d'entrée de gamme pour les jeux de pinball, c'est super intéressant parce qu'il y a des power-ups qui vont te ralentir le jeu, te montrer où ta balle va rebondir selon où tu la frappes avec ton, avec ton flipper. Donc, c'est une super belle introduction à ce genre de jeu-là. Puis juste pour passer le temps puis zen un petit peu là, c'est super le fun, les tables sont super incroyables, on va peut-être en partager une image là,
est-ce que c'est comme ça a la même esthétique que tu disais que Lumino City et tout ça?
Ça n'a pas cette esthétique là.
Ah, okay.
Mais je pense que c'est dans la même ordre d'idée, c'est un jeu avec un aspect visuel
parce que ça l'aurait été assez impressionnant considérant que Lumino City et Lumi c'était pas juste un look de carton, c'était fait en carton.
Ouais. Oui, c'était les vrais. C'est ça. Non, ici on parle vraiment, c'est vraiment l'idée, c'est de dessiner sur la table avec ta boule. Puis plus ça te prend de coups ou plus ça te prend de balles, plus les lignes que tu vas faire vont être foncées jusqu'à temps qu'ils deviennent noirs. À ce moment-là, ben, tu détruis toute ton œuvre d'art sur la table. Fait que tu fais des points quand tu prends moins de boules puis tu fais la plus belle œuvre d'art.
Il y a sûrement aussi une métaphore là-dedans.
Oui, ouais, je l'ai rendu compte en le disant.
Les mettre sur la table.
Fait que Inks.
Tu étais de très premier degré. Hein,
moi, oui. Donc, Inks, INKS, là, sur Internet, c'est super le fun. Je te donne un œil, c'est 1$ et je vous dis tout de suite, 1,99$ sur l'App Store. Fait que c'est pas très, très cher. Puis j'ai eu la chance de jouer aussi à le Sony qui se lance avec le nouveau Uncharted qui est sorti, qui sont lancés un petit peu comme Nintendo a annoncé la même chose dans les jeux mobiles. Donc, Uncharted, Fortune Hunter, qui est un petit puzzle game, un petit peu dans la même lignée que les Lara Croft Go, Hitman Go.
Ouais.
Donc, les jeux qui se passent dans une petite pièce. Là, puis que,
ce qui est vraiment drôle qu'il ait été prendre ce move-là, considérant à quel point Uncharted est déjà beaucoup trop inspiré de Tomb Raider.
Ouais.
Là, même dans le mobile, ils font la même chose.
Mais c'est un petit
puzzle game. C'est pas pareil, là, c'est un gars.
Mais c'est un petit puzzle game qui est de base, assez basic, quand même intéressant. Là. C'est un bon petit passe-temps qui était gratuit. On peut, c'est un, sur la recette freemium. Là. C'est intéressant, mais pas plus qu'il faut. Mais c'était pour ceux qui sont vraiment fans finis du jeu, il y a un petit peu de l'or autour qui peut être intéressant.
Cool.
C'est pas mal ça.
All right.
Moi, je vais faire un petit shout-out à mon homie de Saint-Félix.
Saint-Félix represent.
Represent à Steve de Two Players Mode.
En fait, et à Two Players Mode.
Et à Two Players Mode, en fait, là, oui. Donc, qui ont annoncé cette semaine l'ouverture prochaine de leur rétro-arcade.
Yes.
Oui. Donc, le 10 et 11 juin.
À Joliette.
Oui, à Joliette, justement.
Officiellement, Notre-Dame de Lourdes.
Le Grand Joliette.
Je pense que c'est encore le Grand des Prairies à cet endroit-là.
Ah oui, excuse. Oui, oui, ouais. Des Prairies. NDP.
Ouais, il faut ceux qui nous écoutent en dehors de Joliette.
On s'excuse.
Donc, ouais, qui rouvre le 10 et 11 juin là, pour deux soirées. On a déjà posté l'event là, sur la page Facebook, mais...
Et c'est sûr qu'on va avoir quelque chose dans le prochain épisode à vous proposer à l'entour de ça. Restez à l'écoute pour les fans de rétro.
Voilà.
En fait, revenez pour l'épisode 22. Restez pas à l'écoute jusqu'à l'épisode 22.
Non, non, restez.
Mettez ça sur pause, puis bougez plus.
Alors, cette semaine, dans l'actualité, la maison d'édition Simon & Schuster annonçait, cette semaine, la publication d'un livre de recettes inspiré de World of Warcraft. Attention, il est important de noter que ce n'est pas un livre de recettes des joueurs de World of Warcraft, donc pas de technique de cuisson de pogo, mais bien des recettes imitant celles du
Nvidia,
jeu. Veuillez noter que ce gag hyper dégradant sur les joueurs de World of Warcraft était présent pour deux raisons. De un, dans le but de rejoindre une auditoire plus large, car c'est drôle de rire du monde qui joue à des jeux pendant qu'on a la face collée sur notre sel, sur Facebook toute la journée. Et de deux, ce gag minable avait comme avantage de cibler Dan, joueur de War, et de faire chier Jeff qui déteste ce genre de profilage des gamers. Fait que ça fait plaisir, les gars.
Hey, ça fait le tour. Hein? on peut finir ça, ce spot-là.
Je suis pas offensé. Alors, cela dit, le livre vous montre comment réaliser plusieurs recettes extraites directement du jeu. Et de mon point de vue, assez éloigné de World of Warcraft, il y a du stock qui a l'air assez bon là-dedans. Une recette de Dragon Breath Chili, Sweet Potato Bread, qui a l'air vraiment bon, et du kale au miel, imitant le Honey Roasted Lichen, et satisfaisant tous les hipsters platouidiens en manque de recettes de kale. Il n'y en manque jamais, là, c'est une joke. Là.
Il y a une polémique entourant ce livre de recettes-là. Parce que surtout,
Mon Dieu, que c'est pas intéressant.
Non, parce que les gens sont obligés de comme, sortir à l'extérieur et aller ventrer des porcs jusqu'à temps qu'ils trouvent les morceaux qu'ils ont besoin. Après ça, surtout, ton affaire de dragon, là, et c'est rare, des dragons.
Mais en plus, tu n'es pas sûr que la viande va être dans le bon état pour faire la recette.
C'est ça. Fait que des fois, il faut que tu en tues plusieurs.
Dans le Chili, t'es correct parce que c'est de la viande hachée.
Oui, mais il n'y a peut-être pas de viande, ce dragon-là. Tu sais, les drops d'un RPG. OK. C'est une référence.
Oui, une référence à l'autre pote d'avant. Il
faut vous l'ayez.
On peut-tu avancer, mais...
Arrêtez de vivre dans le passé, les gars. Fait plutôt que de trouver un punch à cette nouvelle, anyway, avec ce qu'on vient de faire, je l'aurais gâché, je vais simplement traduire le titre de l'article de CNET annonçant la sortie du livre, qui va comme suit. Le livre de recettes de World of Warcraft fera dire à vos papilles gustatives « Wow!
Oh. »
Hey, les gars!
Ah, les fans de Jeff sont sortis! Voilà. T'es tout descendu de Montréal?
Toujours des bons supporters.
Ah, OK. Ils sont toujours présents. Également, le site de nouvelles de gaming IGN nous apprenait, et je cite, que Disney cancels Infinity. Donc, Disney annule l'infini. Hein?
Bon, hein?
Annonce qui pourrait être surprenante, car je savais pas que Disney détenait les droits exclusifs sur l'infini. Mais ils ont tellement acheté de choses depuis quelques années, j'ai dû manquer ça. Là.
Mais merci de me le dire, parce que moi, ça fait partie de mon cours de maths.
Ben, c'est ça que j'allais dire. Fait que, c'est fini, les nombres périodiques, Dan.
L'infini.
Et voilà. Non, j'y ai pas pensé. Fait que c'est fini, les nombres périodiques, Dan. C'est fini, les fractales. Possiblement même l'univers. C'est fini, les soupers dans Belle Famille. Puis c'est très certainement fini, les speeches de Jean-François Lisée.
Ah, je pense que t'allais dire que c'était fini mes segments sur Shadowrun.
Oh non, ça c'est impossible ça. Fait qu'il y a du bon, il y a du mauvais, mais on va falloir qu'on apprenne à vivre avec. C'est le mathématicien David Hilbert qui serait fier, étant de son vivant, un fier défenseur du finitisme comme point de vue sur les fondements mathématiques. Excusez, on parlait du jeu Disney Infinity. Bah, c'est annulé, là. Il n'y aura plus des petits bonhommes en plastique, là. Fait que je fais toute cette recherche-là pour rien. Hein. Colique. Alors, le site de nouvelles, VGCultureHQ.com, a publié cette semaine un article intitulé « Uncharted is a fraud », que l'on pourrait traduire par « Uncharted est un imposteur », dans lequel l'auteur suggère cette idée due à l'ineptitude du jeu à prendre toutes les inspirations et... Bon, je peux pas vraiment vous en dire plus parce que l'extrait sur Google arrêtait là. Puis il est mauditement pas question que j'aille cliquer sur un titre de clickbait de même, là, un piège à clic. Fait que si vous êtes curieux là, de pourquoi, allez lire l'article vous-même, je m'embarque pas là-dedans. Donc, dans une annonce qui avait passé sous mon radar l'an dernier, un peu comme l'acquisition de l'infini par Disney finalement, un film de Tetris est en préparation. On apprenait cette semaine que le projet faisait du chemin et que l'investisseur chinois Bruno Wu et le producteur Larry Kazanov, qui avait produit Mortal Kombat, sont en tête du projet, qui serait une coproduction États-Unis-Chine. Le film, ça serait d'ailleurs le premier de ce qui devrait être une trilogie.
Tetris Attack.
Parce qu'il apprend à jouer. Au début du jeu, il est pas bon. Là, il fait vite. Là, il devient plus dans le plaisant meilleur. Puis...
Alors, ça fait un an qu'il travaille avec The Tetris Company. Puis le financement est confirmé. Le projet est estimé à 80 millions de dollars. Kazanov comprend le scepticisme envers le projet et promet que ça va quand même être une belle surprise. Il va avoir un spin à ça. Fait qu'avec.
Chaque pièce va faire 4 spins.
Sweet! Fait qu'avec toutes ces confirmations et la confiance sur le projet, on pourrait même dire que, pour le film de Tetris, que les pièces tombent en place.
Le journal de Montréal. Crèche-chubin.
Contient de l'écrapou.
Comme le dernier segment, finalement. Donc, Journal de Montréal, on repasse avec la catégorie préférée de Matt.
Hein? C'est tellement pas ma préférée.
De la neige en mai, c'est possible? Une question.
Oui, c'est vrai.
Un mois de mai avec neige, même à Montréal, est plus court que 100. La dernière fois qu'il a neigé en mai dans la métropole, c'était en mai, après le mois de mars, le plus chaud jamais observé cette année-là. La dernière fois qu'il a neigé en mai, c'était en mai.
Mm-hmm. Quelle surprise!
C'est indéniable.
Ouais, voilà.
Écoute, citations needed, je veux des références là-dessus.
Mais quelle surprise!
Non, je sais pas.
On n'a pas tes fans, hein? Okay. Close enough.
J'ai la catégorie maudit correcteur automatique. Pas. On a Pierre qui dit je suis franc et direct et surtout je respecte l'opinion des autos.
Failli cracher ma bière.
C'est un commentaire sur Uber, ça?
J'imagine.
Ouais, personne ne leur a demandé ce qu'ils en pensaient, eux autres.
C'est vrai. Hein? Comment t'aimerais ça, toi, du monde inconnu, il s'assoit sur ton siège tout le temps?
Ça vous regarde pas, ça. Hey, oui.
La catégorie, quand on sait pas de quoi on parle, on fait quoi?
On en parle pareil.
On a Alexandre qui dit « C'est donc bien mal informé. C'était au studio 42 de Radio-Canada. Également, le terme « malaise » n'existe pas dans la langue française. Oups! »
What the fuck?
Bon, loin de moi l'idée de vouloir être chiant, là. Mais selon l'Office québécois de la langue française, le mot malaise veut dire sentiment d'inconfort général ou maladie encore indéterminée. Et le terme privilégié par l'OQLF pour cette définition est le mot malaise. Hein, comme dans l'expression, j'ai dit sur Internet que le mot malaise n'existait pas alors qu'il existe bel et bien. Malaise.
Malaiseception.
J'ai la catégorie, ben non, je troll pas, voyons. Et on a Boris la chemise brune qui dit.
Boris, c'est Boris la chemise brune.
Qui dit,
ces gens ont besoin de discrimination pour exister. Une loi pour les protéger les ferait disparaître.
Hein?
J'ai la catégorie récidive où on a un certain Denis.
Ah yes!
Qui dit aller
Denis!
Récidive, il y a sa catégorie à lui. C'est
ah, maintenant, oui. À lire tous les commentaires inutiles, je me demande encore à quoi ça sert les médias sociaux. Bon point, Denis. Bon point.
Et exhibit A.
J'ai la catégorie « Fait plaisir ». On a « Who cares » qui dit « En tout cas, merci aux commentaires, j'ai bien ri. Fait plaisir.
» C'est bon, par exemple, comme commentaire. C'est très valide. «
Alors donc, dans ma mission de tester des jeux qui sortent de l'ordinaire, j'en ai eu pour ma peine cette semaine. Imaginez-vous, c'est la fin du monde, c'est l'apocalypse des zombies, vous vous retrouvez en charge de sauver un petit village bucolique qui se nomme...
Biu, 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 biu.
C'est pas ça son nom.
Non, excusez.
Ça serait pas bucolique, ça serait cyberpunk. Donc, le village bucolique de Abel Township, vous mettez vos running, vous mettez votre speedo, puis vous êtes désormais connu sous le nom de Runner 5. Donc cette semaine, j'ai eu le...
Speedo 5.
Speedo 5.
C'est comme pareil avec Johnny 5.
Si tu veux, tu peux...
Speedo 5 est de retour.
Libre cours à ton imagination. Donc...
Libre cours.
Oh, c'est okay. Un segue.
Hostie, on l'encadre. Oh, on a les drops vintage.
Vintage drop. Donc, cette semaine, pour expliquer le fameux segway, j'ai testé une application de course qui se nomme Zombies Run.
Avec un point d'exclamation.
Avec un point d'exclamation, d'où...
l'enthousiasme.
D'où l'enthousiasme. Donc, c'est un jeu qui est développé par une petite compagnie qui s'appelle Six to Start et l'auteur Naomi Alderman. C'était développé en 2012 suite à une campagne sur Kickstarter. Oui, je pointe par là, parce que vous voyez Kickstarter.
Et 2012, dans son entièreté.
Dans le garde-robe.
Dans le garde-robe.
Donc, c'est... Expliquer ce que c'est, là, rapidement. C'est une application de course, comme il y en a plein d'autres, là, sur les différents App Store qui sont disponibles. Donc, qui va calculer un petit peu notre distance, calculer les kilomètres ou le temps qu'on fait. Mais qui rajoute une twist à ça où il y a une narrative qui vient remplir tout ça, où on se fait parler, on se fait raconter une histoire, c'est comme si on avait une radio sur nous, et on est le seul survivant qui peut aller ramasser des ressources pour sauver le village de Abel Township. Et comment est-ce qu'on ramasse des ressources? Bien, en courant, les kilomètres physiquement à l'extérieur. Donc c'est un jeu qui joue avec comme contrôleur, ben, des running shoes et de la sueur. Finalement, bon, ça c'est une application de course là, comme parmi tant d'autres. La narrative qui est insérée, sans être la meilleure écriture que j'ai rencontrée, c'est quand même intéressant. Ça vient ajouter une petite dimension là, ludique à tout ça. Ça a principalement été écrit par Naomi Alderman, justement, avec quelques contributions d'écrivains de science-fiction qui sont assez connus comme Margaret Atwood ou Andrea Phillips. Donc, l'histoire est rendue à travers différentes saisons. Les saisons, ça représente finalement les différentes versions du jeu qui ont été mises à jour. Donc, quand ils update le jeu, ça vient habituellement avec une... Si je ne me trompe pas, c'est entre 30 ou 40 missions. Puis chaque mission, ça va être un 20 à 30 minutes de course habituellement. Là. Donc, tu complètement... Si tu cours 10 minutes, mais tu as fait la moitié de ta mission, tu fais pause, puis quand tu recommences à courir, tu fais play, puis il recommence où tu es rendu, tu continues ta mission. Donc, il y a... plus de 200 missions qui sont disponibles parce qu'il y a eu une série, il y a 4 ou 5 mises à jour qui ont été faites sur l'application.
Donc, vraiment, après c'est beaucoup de contenu. Là.
Ben, elle écrit exclusivement ça. Elle prend beaucoup de temps là-dessus, puis il y a beaucoup de contributions justement de tout plein d'auteurs autour. Fait qu'il y a beaucoup de chair autour de tout ça. Évidemment...
La chair en putréfaction.
À court passé.
On s'excuse. C'est un gag de zombie, là.
C'est un gag d'overweight.
Ouais, c'est ça.
Donc, après les walking simulators, mais c'est un running simulator. Je pense, si ça serait juste une narrative, il y aurait...
Si c'était juste...
Sérieux?
Tête. Voilà,
merci. C'était... Donc, si c'était seulement la narrative qui entourait la course, ça serait pas suffisant, je pense, pour être un motivateur ou quelconque. Ce qui vient rendre l'expérience intéressante, c'est le système de zombie chase ou de poursuite de zombies. Donc, à travers notre course, ils vont intervenir sur la radio dans nos écouteurs. Une des personnes de la ville qui supposément monte la garde en haut d'une tour, puis qui va dire « Ah, devant toi, dans tant de mètres, je vois qu'il y a un attroupement de zombies. Oh non, mon Dieu, ils viennent de te voir, ils ont entendu le bruit de tes pas. Accélère, accélère! » Donc, quand il y a une poursuite de zombies, tu dois accélérer le pas. Ce qui est super intéressant de l'application, c'est qu'il te force jamais à prendre une direction. Il ne faut jamais changer de direction. Tu cours où tu veux.
Ce serait difficile.
Mais tu cours où tu veux et au rythme que tu veux. Donc, si tu marches avec l'application, tu peux marcher. Il faut juste que tu accélères le pas quand il y a la poursuite de zombies. Moi, comme je courais, ben là, je me suis mis à sprinter parce que c'est arrivé rapidement au début.
Thématiquement, ça marche quand même si tu décides de marcher.
C'est ça. Mais c'est quand même intéressant. Petite anecdote personnelle, c'est que dans la première émission, il n'y a pas beaucoup de chase. Fait que je trouve ça un peu plate. C'est comme, ah, je cours beaucoup. Puis avec le temps qu'on court, il y a une voix qui dit, oh, une genre de voix robotisée là, à la Microsoft Sam qui dit, vous avez ramassé un first aid kit, vous avez ramassé des bandages, des choses comme ça. Fait qu'on ramasse des ressources quand on court. Puis il n'y avait pas beaucoup de poursuites de zombies. Là, ça faisait 25 minutes que je courais. Je commençais à être tanné. Je commençais à avoir un peu de difficulté à m'exécuter. Et quand je suis en train de dire que bon, je suis tassé, je vais arrêter, à l'embarque sur la radio, elle dit « Oh my God, the zombies are here! » Puis là, elle se dit « Les zombies arrivent, allez, cours, cours, cours! » Puis c'est full paniqué, puis c'est comme la fin de la mission. Donc, il fallait que je cours. Une chance, j'étais sur une rue qui était mon plus haut, non? En haut de la côte, j'ai juste pris la perpendiculaire, puis j'ai descendu, puis c'était plus facile. Puis ça a aidé. Donc, c'est quand même intéressant. C'est juste une petite dynamique. Puis je me trouvais drôle d'accélérer à cause d'une pseudo-poursuite de zombies. Donc, à ce niveau-là, ils font quand même bien leur travail. C'est intéressant.
Mais y a-tu un... Mettons, ces poursuites-là, est-ce qu'ils sont réfléchis en termes d'entraînement ou c'est random?
D'après moi, ça à certains temps. Parce que vraiment, la mission s'écrit qu'elle dure, mettons, 28 minutes. Mais d'après moi, à 25 minutes, ça trigger.
C'est scripté.
C'est ça va arriver. D'après moi, parce que tu peux marcher, tu peux courir, tu peux... T'sais.
Mais scripté, mais y a-tu, tu sais, pour du monde qui s'entraîne, y a-tu une logique ou c'est...
Ben, je penserais pas, parce que... Il y a beaucoup d'applications sur les différents stores qui permettent de suivre nos performances, la distance, le rythme cardiaque, les meilleurs temps, ces choses-là. Puis il y en a beaucoup qui sont développés même avec l'aide de professionnels de la santé. Mais c'est pas le cas de Zombies Run. Okay. Les statistiques de course sont vraiment limitées. Puis c'est pas le mandat qu'ils se sont donnés. Ils ne sont pas donné le mandat de dire exactement c'est quoi ton rythme cardiaque, c'est quoi combien tu as perdu de calories, tout ça. Ils vont pas là. Il y en a qui sont mesurés. Tu peux les voir par la suite une fois que tu as terminé de courir. Mais t'as pas de suivi. Fait que c'est pour ça que moi j'ai couru avec en parallèle Zombies Run, puis je roulais en arrière-plan Runkeeper, qui te dit là, t'étais rendu à tant de kilomètres, ça fait tant de temps, puis tu fais, mettons, un kilomètre à toutes les 7,5 minutes, par exemple, quelque chose comme ça. Donc, je me suis gardé l'autre pour avoir ces statistiques-là qui m'intéressent quand même. Mais Zombies Run, c'est assez minimaliste. Alors, leur mandat à eux, c'est de donner à la course et à l'effort physique une narrative, un challenge supplémentaire pour amener les gens à se lever et à aller courir, finalement. T'sais, si tu es déjà athlétique, que tu vas déjà aller courir, que tu cours déjà, ben ça peut être drôle, mais c'est pas ça qui va te motiver à aller courir. Ça va pas ajouter... Tu vas pas aller courir à cause de tout ça. Puis à cause de l'application, je veux dire. Parce que eux, avec Zombies Run, ce qu'ils veulent amener, c'est « Hey, c'est le fun, levez-vous, allez courir, puis ben, vous allez
faire un peu d'entertainment un peu pour...
Puis pour ajouter à ça, au niveau gaming, il y a un genre de basic SimCity, si on veut, parce que la ville d'Abel Township a été détruite, puis les ressources que tu ramasses, mais tu les ramasses pour reconstruire la ville ou le village. Donc, une fois que tu as fini ta course, tu peux aller dans un autre écran où il y a un genre de simulateur de la petite ville, puis tu peux construire des barricades, tu peux construire des bancs, puis t'attires la population, t'attires de la nourriture, t'as le moral qui augmente.
Hey, t'imagines-tu si tous les jeux, au lieu de te demander de gosser tes amis sur Facebook, te disaient « Va donc courir un mille et demi! » Parce que le monde sera en shape.
Puis j'aurais plus d'amis sur Facebook. Fait que c'est vraiment en tout cas, plus d'amis pas bloqués.
Voilà. Fait que tout ça, c'est super intéressant. Leur recette, elle semble populaire parce qu'il y a plus de 1 million d'usagers là, actifs de l'application qui s'en servent régulièrement. Fait que c'est un plus d'un million de gens en forme, j'ose espérer.
Ou
plus qu'ils l'étaient avant. Il y a le concept des virtual races, donc des courses virtuelles qui a débuté en octobre 2015, puis il devait en avoir une au mois d'avril 2016. Je ne sais pas si elle a eu lieu ou non, mais c'était planifié. Ça coûtait 40$. Ça offrait une mission supplémentaire. Donc, c'était un in-app purchase, donc un achat supplémentaire sur l'App Store. De 40$, qui a une mission supplémentaire, un forum privé, un système de médailles et un leaderboard global à travers la totalité des usagers. Il y a eu plus, grâce à cet événement-là, il y a eu plus de 200 rencontres physiques, 200 meet-ups organisés entre les joueurs pour courir l'événement ensemble. Il y en a des vidéos sur YouTube qu'on peut voir où il y a des centaines de personnes qui se regroupent. Puis là, tout le monde est déguisé en personnages. Il y en a qui sont cosplay, il y en a qui sont déguisés en survivants de post-apocalypse. Il y en avait un déguisé en gorille. Je sais pas. C'est juste, je trouve ça intéressant.
Ben, gorille, il a survécu.
Ben, c'est ça.
Il devait faire chaud courir. Là. c'est quelque chose qui mobilise les gens, qui regroupe les gens puis qui les fait courir et sortir dehors. Je trouve ça super intéressant.
Avec un aspect social quand même le fun dans ce pool-là. Là.
Ça me fait penser à le jeu là, de réalité augmentée de Google. Là.
Ingress.
Merci. Qui favorise beaucoup là, les interactions entre les joueurs. Là.
Oui.
Ça m'a fait penser un petit peu à ça. Je trouve ça intéressant comme mécanique.
On va en parler aussi un jour. Celui de Nintendo qui s'en vient. qui est comme la suite d'Ingress.
Oui,
là,
oui, Pokémon...
Pokémon Go. Ah, Go ouais. Qui peut pas être bêta-testé au Canada à date. Non, mais j'aurais été intéressé.
Parce que je suis un petit peu sceptique des efforts de Nintendo dans l'espace mobile.
Oui, mais je vais aller me flatter le Caterpie, moi, dans le parc.
Mais... Pour revenir à The Bees Run, on a suffisamment de Caterpie dans le podcast pour aujourd'hui.
Jamais! Donc,
le jeu est gratuit sur iOS et Android, avec la possibilité d'un abonnement annuel pour 27,99 ou 3,99 par mois. Et l'abonnement va apporter là, plus de suivi de statistiques. Ça va permettre, au lieu d'avoir les missions à chaque semaine qui s'ajoutent, tu peux avoir l'émission tout d'un coup. Donc, il y a plein de contenus supplémentaires qui s'ajoutent, mais on peut avoir l'expérience complète, là, vraiment, juste avec le jeu qui est gratuit. Si vous voulez l'essayer, de toute façon, c'est super intéressant. J'ai trouvé que la narrative, comme je disais, était intéressante. Ça ajoutait une dimension jeu. Tu sais, juste aller courir, aller course à pied. Comme je disais, je trouvais que les événements étaient un petit peu trop espacés, par exemple, pour vraiment créer une impression de tension réelle. Il n'y a pas de stress à courir. Peut-être dans les missions subséquentes, j'ai juste couru la première mission, mais il n'y a pas de stress à travers ça. Le manque de statistiques, c'est un petit peu agaçant aussi. Là, comme j'ai dit, j'ai choisi d'avoir les deux. Parce que jusqu'à maintenant, ça c'est pas quelque chose qui m'aurait fait me lever puis sortir, aller courir dehors. Pas juste pour cette application-là. Je trouve que de voir toi, Matt, qui partage sur l'application Runkeeper, que tu viens aller faire une course, ça me motive beaucoup plus à sortir et aller courir, parce que c'est pas vrai, c'est que tu vas courir plus que moi. Donc, moi, je vais aller chercher ma motivation ailleurs. C'est pas ça qui me motive. C'était quand même intéressant. Je sais pas si personnellement, je vais continuer à m'en servir. C'est quand même compliqué d'avoir les deux applications en même temps. Mais pour ceux qui veulent cette motivation-là, ou les die-hard fans de The Walking Dead, go, essayez-le, ça vaut la peine. C'est quand même super intéressant. Moi, je donnerais à mon divan pour ce jeu-là une paire d'espadrilles maganées trouvées sur un zombie que j'ai décapité à grands coups de raquette de tennis dans une station de service en quelque part entre Papineau et Iberville, à Montréal.
Aujourd'hui, dans l'univers de Divan Quest, 23 mai.
Oui.
Je commence en 1431, naissance du zombie qui a donné la paire d'espadrilles à Jeff. Non, c'est pas ça. Donc, 1431, en revenant à l'histoire. À la suite de son procès pour hérésie, Jeanne d'Arc, la pucelle d'Orléans, est condamnée à être brûlée vive. Fait intéressant, le mot pucelle, oui, ne voulait rien dire de plus à l'époque que fille. Par contre, sa virginité était un argument en sa faveur pour prouver qu'elle était une envoyée divine et non pas une sorcière. Hein, parce que tout le monde le sait, si elle avait consommé, elle serait une sorcière.
Il va s'en dire.
Voilà. Hein, semblerait même que sa virginité a été confirmée par deux fois dans ses campagnes militaires. Voilà donc un bel argument en faveur de l'abstinence pour ceux qui en cherchaient un.
Qui
peut libérer la France.
Et inspirer un jeu de stratégie un petit peu underground sur PlayStation 2, La Pucelle Tactics.
Ou Jeanne d'Arc sur PSP.
Oh. Ou une des campagnes, Age of Empire.
My God, on connaît beaucoup trop de jeux. C'est hein, culture générale. Je ne peux pas te nommer un livre de Zola, mais je crois que
1848.
Non, c'est pas un livre de Zola.
Non, 1984, pas Zola non plus. 1848, oui, abolition de l'esclavage en Martinique. Et non, malheureusement, la Martinique n'est pas le pays des Richard Martineau, qui, eux, restent encore et toujours esclaves de la démagogie.
Oh! Éditorial.
Si peu. 1995, annonce par Sun Microsystems du langage de programmation Java et en même coup du très connu navigateur Internet Hot Java lors de la convention Sun World.
Wow. Je m'en sers encore.
J'imagine. 24 mai 95, apparition du premier pop-up. Une nouvelle version de Java est disponible pour votre ordinateur. Cliquez ici pour démarrer l'installation.
On s'en sort pas, ouais.
2002, entrée en bourse de la compagnie Netflix. On se rappellera qu'à l'époque, le modèle d'affaires de Netflix, c'était la location de DVD en ligne qui arrivait ensuite par la poste, donnant ainsi naissance à la célèbre expression Netflix, 2 week waiting time and chill, but before next Monday because I need to ship back this Ocean's 11 DVD.
Ça flow, hein? Ouais, ça a un rythme.
C'était plus facile à l'écriture.
C'était vendeur. C'est pas... une chance qu'ils sont tournés vers le streaming.
Ouais. C'est plus rapide d'un peu.
Ouais, ne serait-ce que pour ça. Ouais,
Happy birthday to you.
Alors, nous restons bonne fête à tous les patriotes qu'on doit célébrer aujourd'hui. Hein? Et non pas à la reine. Et non pas à...
Demain, je pars pour la guerre avec mon grand chien qui aboie. Des cailloux pleins, ma gibecière, et à mon côté gauche le droit. Je vais tuer sa majesté, qui dit ma tante, qui dit m'aimer. 100 fois par jour, elle me trahit, on doit mourir quand on trahit.
Ben oui, tu devances un de tes segments?
Pensais-tu vraiment que j'allais comme oublier ça? Hein, dans le fond, la journée mondiale, nationale plutôt des patriotes n'est pas toujours le 23 mai, mais toujours le premier lundi qui précède le 25 mai. Donc, bonne journée mondiale des patriotes à tous. Et si vous habitez ailleurs au Canada et que vous fêtez la reine, en espérant que je ne serai pas arrêté pour haute trahison. Donc, je reviens à mes naissances.
Oui, excusez.
C'est correct. 1908, John Bardeen. Seule personne à ce jour, John Bardeen, qui a reçu 2 prix Nobel de physique. Un en 1956 pour ses travaux sur les semi-conducteurs, puis en 1972 pour ses travaux sur la supraconductivité. Bon, pas tout seul dans les deux fois, là, mais... sérieux, good job, Mr. Bardeen. Pas de joke, juste un good job. 1931, naissance de Jacques Zouvi, comédien québécois d'origine turque, aussi le père du comédien Alain Zouvi. Hein, j'ai pas grand-chose de plus à dire, sauf que j'aime beaucoup trop dire le nom Zouvi.
Je pense que j'aime beaucoup trop Cat et
Demi. C'est ça que je m'en allais dire.
On est juste capable de faire des références à quand on écoutait la TV.
Ouais, c'est drôle.
Ça nous ramène à Cat et Demi. C'est rough en esti.
Ça serait temps que ça passe à prise 2.
Je sais pas, j'ai pas ça non plus. 1934, naissance de l'ingénieur en électronique américain Robert Moog, souvent yes. considéré comme l'inventeur du synthétiseur. C'est grâce à son invention qu'on a eu droit à des petits bijoux comme celui-ci. C'est pas tout à fait du synthétiseur, mais c'est drôle de ramener le nostalgique piano c'est de Divan Quest.
Beaucoup trop de polyphonie dans cet extrait-là pour M. Bourg.
Effectivement.
1958, l'acteur, humoriste, animateur et photographe de Drew Carey, qui est maintenant l'animateur de l'émission The Price is Right, mais que j'ai personnellement beaucoup plus connu lorsqu'il animait...
Good evening, everybody, and welcome to Whose Line Is It Anyway?
Fallait que tu prennes le segment parce que c'est Aisha Tyler qui l'a remplacé, qui cale le show.
Ah, c'est vrai. Je me suis dit, c'était une animatrice. J'ai juste pris le premier que j'ai trouvé.
Tu Mais, tu sais. Elle fait une bonne job.
Bonne fête. Bonne fête, Drew Carey. Ouais. Mais lui, dans Price is Right, c'est moyen. Moi, je dis qu'on devrait tous changer nos micros pour ces petits micros-là, avec un long pied là, qu'on tient du bout des doigts.
Ça a son charme. Ou pas. Mais...
1981, hein, le chanteur québécois Pierre Lapointe, qui serait probablement très content d'apprendre que sur notre podcast, nous recevons absolument aucun A, ni B, ni C, ni D, ni E. Bref, on reçoit...
Alphabétiquement, on est assez loin, je pense.
Ouais, je pense que oui. Je m'en vais au niveau gaming. 1996, sortie du jeu Battle Arena Toshinden 2 au PlayStation 1, un jeu de combat 3D, le style Virtua Fighter, avec genre 8 polygones par personnage, là. Mais une intro où on mélangeait savoureusement le full motion vidéo et l'animation avec tant de fluidité que ça fait mal à voir cette semaine sur les réseaux sociaux. Vous ne serez pas déçus, je vous le garantis.
Il y avait du FMV là-dedans?
Dans l'intro. Pas dans le jeu. L'intro.
Pour vrai?
Ah, c'est affreux. Des acteurs là, en cosplay, des personnages en même temps que les personnages en 8 polygones là, qui sont présentés. Là.
J'ai hâte de voir ça.
Oui, voilà. À suivre. J'avance en 2000, la sortie de Siphon Filter 2 au PS1. Hein, c'est la semaine des sequels au PS1, ça a l'air. jeu de shooter tactique, un peu. Là. Nouveauté dans le jeu 2.
un peu. Genre tactical.
Nouveauté dans le 2, finalement. Un mode multijoueur. Là, on peut jouer jusqu'à 4 joueurs où est-ce qu'on pouvait s'entretuer, encore une fois, du haut de nos 8 polygones. Sérieusement, le 3D du PS1, là, ça n'a pas super bien vieilli.
Dans un écran séparé en 4.
Oui, ouais, sur une 28 pouces. Là, ouais. J'avance en 2005, sortie de Fire Emblem Sacred Stone au Game Boy Advance. Sérieux, si vous connaissez pas la série Fire Emblem et que vous aimez les jeux tactiques, là, je l'ai dit tantôt, je le dis encore, mettez pause. Là. Allez acheter une version de Fire Emblem sur une des consoles que vous possédez, puis revenez écouter le reste du podcast après.
Mais idéalement, prenez ceux du Game Boy Advance.
Moi, ce sont des bonnes versions.
Ouais.
Ben, celle du 3DS, c'est... moi, j'ai bien aimé.
Ouais, ben ça, ben, les versions mobiles ont moins d'animé, là. Tu sais, c'est moins aliénant un petit peu pour ceux qui sont moins fans de trucs japonais.
Dans ce sens-là, oui. Moi, je pensais beaucoup aux versions plateforme mobile aussi, là. Ouais. Mais la version 3DS, c'est vraiment cool. Puis il y a un mode aussi pour ceux qui connaissent pas le jeu où c'est... ça peut être moins frustrant, là. Parce que dans les jeux plus anciens, la mort des personnages est...
permanente.
Permanente, là. Donc ça peut surprendre. Je reste en 2005, puis je reste sur la même console, toujours au Game Boy Advance, sorti de WarioWare Twisted. Un jeu de Game Boy Advance qui contenait, dans le fond, un capteur gyroscopique pour utiliser le mouvement comme mécanique de jeu. Là. C'est probablement un des premiers. Là. C'est pas le premier jeu du genre, en tout cas sur une console mobile. Là, j'ai pas réussi à trouver l'information, dans le fond, qui utilisait ce principe-là de mouvement gyroscopique sur une console. Une belle innovation en 2005. Petit message là, aux développeurs modernes, maintenant. C'est pas parce que ça se fait que c'est toujours une bonne idée de le faire. Merci.
En fait, s'il y en a un, je pense qu'il y avait Kirby, Tilt and Tumble. Qu'il précède. Mais ouais, dans les pionniers de ce genre de mécanique.
Ça a fait des vagues quand ça avait sorti, ça là. Tout le monde en parlait. Puis,
Ouais, ben, puis Nintendo était en mode. Là. Ils sont mis le jeu de Kirby au Game Boy Color. Après ça, il y avait un jeu de Yoshi sur Game Boy Advance aussi. Puis partout où ils pouvaient sacrer le sensor, ils l'ont fait.
Ben, ils ont dû payer assez cher de développement, on peut comprendre. sans oublier notre prénom du jour pour Divan Quest aujourd'hui, qui est Guibert.
Guibert. Oh.
Non, mais c'est ça a son charme.
Blade of Steel.
Quand on voit la panoplie de jeux vidéo qui reprennent les idées d'autres jeux vidéo, à en être quasiment des clones avec juste une petite nouvelle idée de rajouter en guise d'innovation, on se dit rarement que les jeux sont bien ben limités par les lois sur le plagiat ou par les brevets. Mais détrompez-vous. Parce qu'il y a une proverbiale chier de brevets et de droits d'auteur sur des éléments de jeux vidéo qui empêche les créateurs de consoles et de jeux de faire les produits qu'ils voudraient.
Ça peut pas être autre chose qu'extrêmement drôle qui s'en vient.
Alors, on commence au cinquième rang. Oui, c'est le coup de marteau de Phoenix Wright.
Voilà.
Ouais, c'est faut le préciser parce que c'est...
Ça, une autre fois pour le fun?
C'est le gavel, c'est le maillet du juge, comme dit Chuck. Alors, vous vous êtes déjà demandé pourquoi il n'y a pas beaucoup de jeux qui reprennent la roue de dialogue de Mass Effect? Ben oui, c'est breveté. Puis même pas par BioWare en passant, qui l'ont pris dans Dragon Age. Mais c'est breveté par EA.
Ouais, c'est ça, j'allais dire, parce que dans Star Wars The Old Republic.
Ding, ding, ding.
Je cherche mes mots.
Voilà. Puis c'est ça, puis justement, le bout qui est très drôle par rapport à ce brevet-là, c'est qu'il est très spécifique sur le fait que c'est une roue. Donc, tu peux le reprendre tant que c'est pas une roue.
Fait qu'un triangle, un pentagone de dialogue.
Il précise quand même dans le verbe du brevet que les choix sont paraphrasés du résultat, puis que ça peut comprendre des réponses qui sont en fait des actions. Fait que, mais justement... et voilà.
Fait que, wow!
Mm-hmm. Mais pour infringe?
Infringe, ouais, pour bref, contrevenir.
Contrevenir, un brevet comme ça, est-ce qu'il faut que tu contreviens à un des trois ou il faut que tu contreviennes à l'ensemble?
En fait, c'est... Ça va dépendre du juge, à ce moment-là, qui considère que tu enfreins l'esprit du brevet. C'est toujours l'idée de l'esprit du brevet. C'était quoi le but recherché quand tu as pris cette action-là? Est-ce que c'est conscient? Est-ce que c'est dans le but vraiment de prendre cette idée-là? Donc, mais ils sont très spécifiques au niveau de la roue. Fait qu'il y a plein de jeux là, qui offrent des choix multiples de dialogue avec des choix moraux, etc. C'est vraiment comme, ben, nous autres, on a un format qui est une roue basé sur le joystick analogue des jeux de console, évidemment. Fait que c'est très, très approprié. Fait que la fucking roue de dialogue est brevetée. Mais justement, il y en a plein qui ont pu reprendre l'esprit du système vu qu'ils n'ont pas juste pas pris à roue. That's it. C'est tout ce que ça prenait. Alors, au quatrième rang. c'est juste le deuxième item de la liste, mais je vais déjà tricher. C'est pas un brevet ici, mais une marque de commerce. Je parle du crétin de Tim Langdell et de son trademark sur le mot « edge » dans tout ce qui a rapport de près ou de loin aux jeux vidéo. Donc, en bon trademark troll qu'il est, il a attaqué le magazine Edge, le jeu mobile Edge, tu sais le petit cube qu'il faut que tu tasses sur des plateformes.
Ouais. Bon.
Il a même attaqué Namco avec le jeu Soul Edge, qui a été renommé Soul Blade dans ses versions subséquentes. Puis ils ont arrêté de se faire chier avec les multiples noms. C'est devenu Soul Calibur pour avoir un brand qui était impossible à copier. À cause des poursuites avec M. Langdell.
Y'a-tu de quoi avec le lutteur, là, The Edge?
Qui est... Malheureusement, ça n'a pas rapport au jeu, fait qu'il n'a pas pu rien faire.
Et dans les jeux, non,
ouais, le guitariste non plus.
Mais voilà. Puis ça, il s'est attaqué une fois de trop à EA pour Mirror's Edge. Il a même été jusqu'à annoncer sur son site Gamer's Edge, en tout cas, un jeu du nom de Mirror's Edge, probablement dans le but d'appuyer la validité de sa poursuite, même s'il n'a même pas sorti de jeu vraiment digne de ce nom depuis le milieu des années 90.
Mais ça vient de où, son brevet? Parce que moi, le nom, ce nom-là ne me revenait pas.
C'était le nom de sa compagnie, okay. De jeu. Il faisait, à l'époque, des ports puis des jeux licencés sur des parle. PC, ben des plateformes d'ordinateur.
Fait que le gars fait des licences puis des ports de jeux, puis il copyright puis il fait chier avec. C'est très drôle.
Yep.
Là, on parle, ça, c'est dans... dans les années 90.
Il faisait ça au début 90.
Il avait déposé le brevet pour son... Pour
ouais, exact. Dans le temps, il faisait des jeux genre pour Amiga, Amstrad, tous les ordinateurs 8-bit à l'époque. Mais heureusement, ce qui explique d'ailleurs pourquoi je n'ai pas mis ça plus haut que le quatrième rang, en 2013, cette saga a pris fin. Suite aux efforts de EA, qui ont amorcé justement en 2009 à cause de Mirror's Edge, le Bureau des brevets des États-Unis a invalidé le trademark de Monsieur le Crétin. Donc, on a la maudite pessale avec Stepala.
Pour une fois, on peut applaudir EA.
Ouais, on va y aller.
Mais ils méritent pas plus que des 8 bits d'applaudissements.
J'espère qu'ils en ont profité.
Savourer, c'est bon.
J'ai des contacts, je demanderai.
Alors, au troisième rang. Plus sérieux.
Non, non.
On a la fameuse flèche verte qui pointe la direction du prochain client dans le classique d'arcade Crazy Taxi de Sega.
Pas sérieux.
Et oui. Sega était tellement fier de cette solution pré-GPS pour indiquer le chemin qu'ils ont breveté la patente. On va prendre une minute pour dire que, tu sais, il n'y a pas tant de monde que ça qui voulait la copier, là. Parce qu'aussitôt que t'es rendu assez proche de la cible dans Crazy Taxi, là, ça devient de la complète marde. Là. La flèche se met à capoter et elle devient plus qu'inutile. Là.
Mais là, c'est ce qui est trademark, tu sais peut-être pas si tu le fais. Je pense qu'elle comme flashait, elle grossait puis elle rapetissait.
C'est une flèche en trois dimensions, okay. En perspective, qui t'indique le chemin par rapport à ton point de vue actuel.
Parce
c'est
que je l'ai vu à d'autres places. Là.
En fait, on l'a vu dans The Simpsons Road Rage.
Ouais. Mais ça, c'était. Il y avait des liens, je pense. Là.
Et non, parce que EA s'est fait poursuivre.
Ah.
Ouais. Le jeu, là, pour ceux qui connaîtraient pas The Simpsons Road Rage, c'est un clone de GTA dans l'univers des Simpsons avec une belle grosse flèche en haut de l'écran qui pointe vers la direction. T'sais, on s'entend que tout le monde peut arriver à cette idée-là sans trop se forcer. Là. Hein,
ben, il y a une application, comme pas une application, un add-on très, très utilisé de WoW qui s'appelle TomTom, comme la GPS, qui sert à ça, là, qui t'indique... des directions sur ta map. Mettons, tu mets un point sur la map, elle va te l'indiquer, puis c'est ce genre de flèche-là qui est utilisé.
Fait qu'ils sont poursuivis par TomTom, puis... Ouais.
Ni un ni l'autre, présentement. Je pense que le fait qu'il n'y a pas d'argent de fait avec ça a peut-être un impact.
Bah, il n'y a rien à poursuivre, là, effectivement. Là. Mais tu sais, on s'entend, là, la solution classique GPS, là, d'avoir la ligne sur une map, c'est idéal. Ou sinon, la fameuse trail lumineuse, qui te dit carrément par où passer, qui pointera pas au travers d'un mur. Là. Fait que non, ils n'ont pas breveté l'idée du siècle avec ça. Mais bon, ils l'ont fait pareil. Au deuxième rang. Merci.
À chaque fois, je vais rire.
Contenez-vous. Moins infâme que le brevet au premier rang, mais combien plus affligeant pour les joueurs. Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi les manettes n'ont pas toutes des pavés directionnels ou des D-pads pour les intimes aussi efficaces que ceux sur les manettes de Nintendo en forme de croix?
Ouais, j'avais entendu ça.
Et ce n'est pas la complexité technique de ça qui est impressionnante. Vous avez juste à ouvrir une manette de NES pour voir que c'est assez niaiseux, là.
Oh oui, c'est pas, hein.
Mais, ben, qu'un brevet sur les contrôles directionnels en forme de croix. Nintendo était blâmé pour le D-pad complètement dégueulasse de la manette du Xbox. Merci, Nintendo. Mais la raison pourquoi j'ai repoussé cette tare sur les périphériques de jeu au deuxième rang, c'est surtout parce que le brevet est expiré depuis 2005, ce qui explique justement pourquoi Microsoft ont sorti des nouvelles manettes pour le 360 et maintenant pour le Xbox One avec des D-pads qui ont du bon sens en forme de croix.
Je savais pas ça, mais c'est intéressant. C'est pour ça que Sony ont juste les quatre flèches, exact. Puis le rond sur les manettes de
360. Sony ont trouvé une super belle solution.
Ouais, c'est vrai que c'est efficace.
Puis si je me trompe pas, Sega avec le Dreamcast avait un D-pad, sauf qu'il est construit à l'envers. C'est-à-dire que le pivot se trouve à être dans les flèches plutôt que dans la base de la manette, ce qui outrepasse le brevet, même si c'est essentiellement.
Parce que le principe d'un brevet, là, je sais pas si c'est partout pareil, mais c'est généralement si tu amènes. Bon, tu sais, si tu amènes une innovation, tu peux breveter l'innovation, même si ça part d'un brevet qui est existant, si l'innovation est assez importante. Fait que ton truc de Dreamcast, probablement qu'ils ont pu comme amener ça en 10 ans, puis les gens du bureau de brevets ont dit, bah, c'est vrai que l'innovation est là, c'est assez différent pour dire que c'est autre chose. Puis,
parce que surtout que le brevet initial est excessivement simple. C'est ouais. Parce que si on regarde une manette de Nintendo, là, c'est juste des rubber switch. Là. C'est une croix en rubber avec une croix en plastique par-dessus. Là. Il n'y a aucune mécanique à ça.
Non, c'est ça.
That's it. Fait qu'aussitôt que Sega a rentré une mécanique dans le fonctionnement de ça, donc le pivot inversé là, pour pas tomber trop technique, là, ça a comme outrepassé le brevet puis ils ont été corrects. Et voilà. Fait que mais merci Nintendo pour les souvenirs puis fuck you pour les brevets sur les
mais c'est vrai que la manette de Genesis n'a jamais été si efficace. T'sais,
c'est
correct.
Une espèce de rond. Il y a bien du monde qui ne jure que par ça. Bon, hein.
C'est pas la bonne forme intéressante. Là, je trouve avec les deux pointus en dessous.
Oh, la forme de la manette, pousses, oui, là. Mais je parle juste du D-pad. Là, parce que oui, la manette comme telle.
Et finalement, au premier rang, m'en donner deux. Voilà, c'est fait. Au premier rang, le plus infâme brevet, qui heureusement est arrivé à échéance le 27 novembre 2015.
Yeah!
Le brevet que Namco a sur les jeux dans les écrans de chargement.
Oh oui!
Et oui. Personne sauf Namco avait le droit de mettre un mini-jeu sur les écrans de loading, surtout ceux fucking interminables des 2-3 dernières générations de consoles. Il faut quand même donner crédit à Namco que leur utilisation de cette idée-là avait été assez solide dans Ridge Racer sur PlayStation afin de masquer les temps de chargement complètement mongols de ce jeu-là. On pouvait jouer à Galaxian, le jeu d'arcade classique de Namco des années 80, en attendant. Mais pas juste ça, si on finissait le tableau dans Galaxian, avant que Ridge Racer ait fini de loader, ça débordait des chars aux couleurs de plein de jeux classiques de Namco.
Hey, on s'entend que les loadings sont longs pour que tu aies le temps de débarrer les chars. Là.
Puis, mais malheureusement, par contre, Ridge Racer n'avait aucune sauvegarde. Donc, il faut absolument réussir quand on démarre le jeu. Parce que, ben, à quelque part, là, c'était un peu comme avoir deux jeux, parce que Ridge Racer a juste une piste. Ben, pour la variété, on pouvait la faire à l'envers.
Il y a une piste, puis elle est longue à loader, imagine.
Ouais, mais il y a un loading au début. Tu mets le disque dedans, ça load, tu joues à la Galaxian, puis il ne reload plus.
Ouais.
Parce qu'il y a juste une piste.
Parce qu'il y a juste une chance.
Que tu peux faire dans les deux sens. Exactement. Fait que, hey, hein, après ça, le monde chiale que les jeux sont chers pour le contenu qu'il y a dedans.
Hey, mais là, tu avais deux jeux.
Et voilà, écoute, Galaxian. Mais bon, beau brevet de marbre qui est probablement responsable de beaucoup de soupirs, de ben des as, donc ben long. Puis peut-être même de l'alcoolisme de certains d'entre nous, vu que t'avais clairement le temps d'aller te chercher une bière avant de pouvoir jouer.
mais c'est vrai que c'est intéressant parce que j'avais entendu justement que des gens qui voulaient faire ça, peut-être dans les indie games, puis ils se disaient non, tu peux pas.
Mais j'ai trouvé un YouTuber qui présente tant des listes de shit horribles comme ça, un Britannique. Puis il présentait d'ailleurs qu'à l'époque du Commodore, si je ne m'abuse, il y avait un jeu de chargement qui existait. Ce qui fait que ce brevet-là serait invalidé. Si quelqu'un avait voulu le poursuivre, il aurait pu prouver qu'il y avait un précédent, puis l'invalider. Mais il n'y a jamais personne qui en est arrivé à cette conclusion-là. Attends. Voilà. Classics.
Parlant de brevets puis de copyright infringement.
Et bien aujourd'hui, on parle d'un classique du gaming moderne, si une chose comme ça c'est possible. Classique moderne. On parle de Angry Birds. Ok, arrêtez pas d'écouter, partez pas. Hey! Hey!
Moi, je vais. Je suis parqué en double, j'ai de l'argent dans le parcomètre.
Et de la visite du feu.
La visite du feu.
J'ai une perte de nos auditeurs, je m'excuse.
Et ainsi que tes co-animateurs.
Mais
on t'écoute!
Laissez-moi la chance de vous prouver ce que j'avance. Mais si le premier jeu mobile est reconnu pour être une variante de Tetris sur le Agenook MT 2000 en 1994, c'est...
J'en parlais justement ce matin.
C'est... Je m'en servais justement ce matin pour plus ma mère. C'est un des premiers appareils mobiles, en fait. C'est le premier avec un soft tone, un appareil mobile. Avec...
Ouh!
C'est... En 94, donc c'est des gros téléphones. Pas pour la même raison qu'aujourd'hui. Donc, et si le jeu qui a eu probablement le plus grand succès sur les plateformes mobiles, c'était Snake sur les appareils Nokia avec une installation sur plus de 350 millions d'appareils à travers le monde. By the way, le Nokia 6110 avait une version de Snake qui utilisait le port infrarouge d'appareil pour jouer en multijoueur. Là, on parle de plusieurs années.
Comme le Game Boy Color.
Comme le Game Boy Color. Eh bien, Angry Birds, c'est un peu, quant à lui, le précurseur du paysage du gaming mobile moderne. Plusieurs personnes vont approcher Angry Birds d'entrée de jeu en disant que c'est un rip-off. Ils n'ont pas tort, ils n'ont pas nécessairement raison non plus. Parce que Angry Birds est presque littéralement une copie de Crush the Castle, un jeu Flash qui est sorti sur le web en avril 2009, quelques mois avant Angry Birds. Angry Birds, lui, qui a vu le jour, le premier Angry Birds original sur iOS en décembre 2009. On pourrait dire que c'est un rip-off, c'est les mêmes mécaniques. C'est un jeu où il y avait un château, puis le but du jeu était de tuer les habitants du château avec un trébuchet qui lançait une roche. Et quand on frappait les habitants du château, ils explosaient en pulpe saignante et rouge et hurlaient à la mort.
Ça, c'est le premier de ce genre-là sur mobile, tu parles?
Non.
Crush Castle a été disponible sur mobile. Il y en a une version mobile.
Ouais. Parce que,
il y en a même deux.
Il me semble qu'avant ça, il y a eu des jeux semblables à ça. Il me semble que je jouais à un jeu qui ressemblait un peu à ça.
Je suis impressionné si tu as joué au jeu avant. Parce qu'un des développeurs de Crush Castle a affirmé ne pas avoir de rancune en face du succès de Angry Birds. Parce qu'eux-mêmes avaient copié Castle Clout, sorti en 2008, qui est finalement exactement Crush Castle, avec des graphiques moins beaux. Non, il était disponible sur le web.
Ça devait être autre chose, finalement, mon affaire.
C'est des jeux qu'on peut jouer encore aujourd'hui, d'ailleurs, là, qui sont gratuits sur les sites des développeurs. D'ailleurs, les jeux de destruction, c'est pas quelque chose de nouveau. On peut remonter à Rampage sur arcade en 1986, où on avait...
Ça devait être ça que je parlais en plus.
Là où il y a comme une ville avec King Kong. Bon, on détruit la ville. Là,
gros hommage au film de monstres géants qui détruisent une ville.
Oui, puis même les jeux de société dans notre jeunesse empruntaient déjà le concept. Est-ce que les gars, vous vous souvenez de Siège?
Yes.
Oh, avec des petites balles rouges.
Oh, mais ça, les petites balles rouges et catapultes.
Ça détruisait juste les dessous de pieds de ta mère parce que tu retrouvais les petites crises de boboules partout dans la maison.
J'ai tellement joué.
J'ai très peu joué, mais c'est comme beaucoup de jeux de l'époque qui avaient des affaires qui revolaient, ça rentrait pas chez nous.
mais évidemment, Angry Birds, il y a beaucoup de gens qui vont critiquer le jeu. On entend souvent dire, les gens, que le jeu est overrated, qu'il ne mérite pas le succès qu'il a eu. C'est un argument qui revient souvent quand on parle de jeux qui ont eu un énorme succès, malheureusement. Un argument qui n'est pas nécessairement de valeur pourtant. Mais les développeurs doivent avoir forcément fait quelque chose de bien pour que ce jeu-là gagne en popularité aussi rapidement et devienne aussi reconnu. Fait que si on jette un coup d'œil rapide aux mécaniques du jeu. Angry Birds, c'est un jeu d'artillerie, si on veut.
Sure.
Autant l'appeler comme ça, où on doit détruire donc, des murs pour endommager les cibles qui se cachent en arrière, ce qui est exactement un rip-off de Crush the Castle ou de Castle Cloud. Angry Birds, c'est tout ça, mais en ajoutant une couche visuelle vraiment intéressante, vraiment originale, qui avait un look différent, puis qui était attrayant pour une audience qui était très, 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 très large. Donc, il n'y a pas seulement les jeunes qui ont joué, nos parents ont joué, nos grands-parents ont joué.
Plutôt que l'enrobage, justement, un très, très mâle, hardcore gamer de Crush the Castle, que tu détruisais des châteaux et que le monde se faisait pulper dans le château.
Angry Birds présente une rafraîchissante absence de sang.
De violence, quasiment.
De violence.
Ben,
c'est pas très violent. En plus de ça, la mécanique pour viser dans le jeu est super accessible, fonctionne extrêmement bien. Selon moi, c'est une des premières applications de mécanique sur un appareil mobile qui a fonctionné. Avant, on a eu les Snake, on a eu des Bejeweled, on a eu des choses comme ça, qui n'étaient jamais vraiment raffinées ou peaufinées. Il manquait tout le temps quelque chose pour que le jeu devienne des AAA sur le mobile. On se rappelle l'époque, on est au début des jeux sur Android où il n'y avait absolument rien. Il y avait juste de la crap, en fait. Donc, c'est des contrôles qui étaient extrêmement...
Ça n'a pas changé tant que ça quand tu es en proportion 2.
Ouais, mais bon.
On parle de Angry Birds encore. Que...
mais ça reste des contrôles qui étaient extrêmement intuitifs. Même nos grands-mères, ils ont probablement joué. Là. Ils ont appliqué efficacement le KISS principle, le keep it shitty simple.
Moi, c'était keep it simple, stupid.
Ouais, moi, j'aime bien shitty simple. Donc, tu sais, tout le monde connaît cette mécanique-là. Tout le monde a joué à Angry Birds.
C'est vrai que c'est...
C'est instinctif.
C'est instinctif. Tu bouges ton doigt, puis pouh, ça suit.
Il y a même un arc là, avec la petite ligne qui te dit où, dans quelle direction ton petit oiseau va aller. C'est facile, on comprend rapidement, puis le jeu est intéressant. Il y a même une profondeur au jeu avec le système de 3 étoiles qui encourageait de rejouer une certaine rejouabilité au jeu. On va essayer de le faire le plus efficacement possible.
Qui est devenu un standard.
Exactement. Puis c'est pas le seul standard qu'Angry Birds a déterminé non plus. La trame audio était fantastique. C'est un des éléments du gaming mobile qui est souvent mis de côté. Combien de jeux disent qu'ils sont meilleurs avec Better with Headphones, qui vont dire que c'est à jouer avec des écouteurs, mais tu joues ça dans le métro, tu joues ça, puis t'as...
Ouais.
Puis t'as pas ça, parce que dans le métro, t'entends rien.
On s'entend que c'est un thème qui a été repris là, par, par Angèle Dubois, la violoniste québécoise.
Ouais, ouais. Oui.
Ça, ça montre quelque chose. T'as la fille qui est une violoniste internationalement reconnue.
Mais c'est un album de tournes de jeux vidéo.
C'est un album de tournes de jeux vidéo, mais tu sais, quand même, sur tes tunes, tu choisis celle-là. Ça, ça montre quand même un reach, une portée intéressante. Là.
Qui a aussi été remixé dans un jeu de danse, un genre de dance, quelque chose comme ça, je pense.
Ouais, mais Just Dance.
Ou ouais, Just Dance, je pense.
Ouais, mais dans Just Dance, il y a aussi Let's Go to the Mall qui a été remixé. Fait que tu sais.
En plus de tout ça, Angry Birds a un système de power-up qui est super intéressant, qui encourage le joueur à rester actif, à rester engagé dans l'action pas jusqu'à la fin de son tir. Donc, c'est pas, on lance pas l'oiseau, puis après ça, on le regarde s'en aller, puis on n'a rien à faire. On le lance, puis on doit interagir avec pour avoir un effet plus ou moins fort là, sur les fortifications des cochons. Donc, un autre des items qui rendait ce jeu-là vraiment addictif pour les joueurs. En plus de l'idée de forcer les joueurs à utiliser certains des éléments dans certains niveaux. Par exemple, il y a certains niveaux où on avait un rouge, deux jaunes, trois bleus, ou un noir puis un jaune. Puis on avait le nombre de ressources est limité, puis est prédéterminé. Donc, ça te force à utiliser chacun.
Mais je pense que l'idée, justement, qui était dans un certain ordre, ça ouais. demandait une certaine planification.
Aussi, ça amène une stratégie, une profondeur grâce à ça.
Oui, puis ça donne une possibilité, généralement, pour ceux qui, tu sais, ou les plus jeunes, ou ceux qui s'en foutent un peu plus de. Bon, mais j'ai réussi un peu n'importe comment à tuer tous les cochons. Puis t'as les ceux qui sont un peu plus gamers qui font comme, OK, moi le faire comment pour avoir mes trois maudites étoiles? Parce que, personnellement, quand je jouais à Angry Birds, je me faisais chier là, à vouloir les trois maudites étoiles. Là, t'sais.
Bon, c'est sûr que quand tu jouais à Angry Birds, tu te faisais chier.
Ouais. Ou j'étais en train de...
tu jouais dans le métro.
Et voilà.
Mon Dieu, c'est
un vieux gag.
On met les guillemets, on va te sauver.
On va rappeler aux auditeurs que j'habite en campagne, qu'il n'y a pas de métro dans mon coin. Fait que voilà. Vous tirez les conclusions que vous voulez.
Ce qui est intéressant...
Je viens de passer à l'épicerie, là, mais bon, c'est...
J'ai fait beaucoup d'accidents de panier d'épicerie.
Alors oui.
Donc, ce qui est intéressant, c'est qu'en 2009, quelques mois avant la sortie de Angry Birds, Rovio, là, le développeur, était au bord de la faillite, en fait. C'était sa passe ou sa casse. Il y avait plusieurs jeux qui avaient tenté, qui n'avaient pas levé, qui n'avaient pas eu du succès, qui étaient escomptés. Malgré qu'auparavant, il avait développé plusieurs idées, mais qui ont été vendues à d'autres studios qui ont fait de l'argent avec leurs idées. Donc, il développait des concepts pour d'autres entreprises qui, eux, faisaient le marketing et profitaient. Donc, Rovio était sur le bord de la faillite. Il avait besoin, eux, de profiter de leur propre expertise. Et il y avait en main un jeu de personnages qui était super intéressant. C'était tous les oiseaux, les cochons, mais ils ne savaient pas quoi faire avec. Toutes les mécaniques qu'ils apportaient...
Des cheers, les autres.
Non, mais toutes les mécaniques qu'ils apportaient ne fonctionnaient pas. Jusqu'à temps qu'un développeur arrive, là, il y a eu un éclair de génie ou de copie, peu importe, overnight.
Il a passé du temps sur Newgrounds, puis il est tombé sur Plage de Gasson.
Puis il est arrivé avec le concept. Souvenir. Ça a été leur succès, en fait. Quand ils ont enfin trouvé leur solution, il n'y a pas personne qui aurait pu prédire le succès monstrueux de la franchise à ce moment-là, ni la vague de jeux mobiles qui allait s'en suivre. C'est vraiment le jeu qui a invité les développeurs à venir développer pour nos plateformes. C'est possible d'avoir du succès et de faire de l'argent avec ça.
Oui, mais quand on considère que cette année-là, il y a quelqu'un qui a sorti une application pour iPhone qui était un téléphone rotatif, puis il a vendu quelque chose comme 100 000 piastres, là. Le monde qui avait des iPhones avait plus d'argent que de jugement.
Ouais. C'est comme. C'est ça, c'était le début, hein? C'était.
L'éditorial.
Mais. Excuse-moi, c'est l'erreur, ça a été parlé au passé.
mais tu sais, toutes les années, là, en 2010 puis 2015, c'est une sorte d'Eldorado là, pour les développeurs de jeux mobiles. C'est l'explosion des modèles free-to-play ou des modèles le freemium. Ouais. On en dira ce qu'on voudra, ça a quand même un succès
alors, ça marche.
Immense.
Le soupir n'est pas en fait que ça ne fonctionne pas. On le sait qu'il rapporte des millions puis des milliards en fucking Smurfberries, là. C'est un modèle de con.
Mais il y a quand même des développeurs qui essaient d'utiliser des recettes un petit peu différentes ou des variantes là, du modèle. Il y en a des un petit peu plus agréables, il y en a qu'on peut jouer quand même. Oui. Qu'on aime ou qu'on n'aime pas,
qu'on peut jouer.
On peut... Mais qu'on aime ou qu'on n'aime pas, on peut pas. C'est indéniable le succès que ça a eu.
Je suis d'accord. Là, mon pétage de plomb sur les freemium et joue à Dungeon Boss. Là. Mais Dungeon Boss, là, si je décide pas de faire des missions instantanées, là, ben, je peux jouer pendant une couple d'heures sans manquer d'énergie. T'sais. Il est fait de façon à ce que si tu veux, tu peux jouer longtemps sans avoir à rien acheter.
Non, le modèle évolue, là.
C'est ça, là. Mais à un moment donné, là...
Pas de chance, ils n'ont pas le choix, là. Mm-hmm. Mais, malgré la compétition de des Clash of Clans ou des Candy Crush, Angry Birds, ça reste le jeu qui emploie le modèle freemium, qui est le plus téléchargé, avec il y a plus de 2 milliards de téléchargements à travers l'ensemble des plateformes. Comme je dis, tout le monde a joué Angry Birds. Tout le monde a installé Angry Birds au moins une fois sur un appareil mobile qu'il a possédé. Même le premier ministre britannique a affirmé être addict à Angry Birds. Comme quoi, mais tout le monde aime ça, se jouer après le moineau.
Hashtag je suis moineau.
Je suis moineau. C'est notre nouveau...
C'est le printemps.
Mais Angry Birds, c'est pas tout. C'est aussi des versions en peluche, des personnages. C'est aussi des livres de recettes, des livres à colorier, un livre du National Geographic. C'est aussi une... C'est aussi une télésérie animée sur Roku, des choses comme ça, là, sur les plateformes de streaming payantes américaines. C'est aussi un film d'animation 3D qui sort en salle le 20 mai.
Hey, quand on dit manquer le bateau, hein? Genre, le film sort 4 ans trop tard.
c'est aussi une marque de boissons gazeuses.
C'est aussi des petits jeux de société qui consistent à faire exactement ce que le jeu fait, c'est-à-dire pitcher du stock sur d'autres stocks, puis ramasser des petites bouboules à terre en dessous du meuble, comme dans Siege.
Puis de te péter un pied.
À la fin, full circle, hein? On est revenu à Siege.
Ouais, Shalom McDonald avec mon gars cette semaine, puis les jouets qu'il donne dans les Happy Meals, c'est ça. Là. C'est un petit cochon, un oiseau avec un truc pour le lancer, puis tu pètes son château. Là. J'ai eu plus de fun avec que lui.
comme plusieurs jouets pour enfants.
Ouais. C'est aussi un parc d'attractions.
Mon Dieu, c'est pas que j'ai plus mon drop de Big Bang Stroop.
En fait, c'est même plusieurs parcs d'attractions. Il y en a même un qui est... c'est la NASA qui est le propriétaire.
Où tu lances tes enfants sur des murs pour essayer de briser les trucs.
Tu lances tes enfants dans une porcherie.
Non, ça joue à Saint-Lin.
Mais qu'est-ce qu'on attend pour y aller?
C'est aussi Matt...
Pourquoi moi?
Hockey Bird. Un oiseau colérique qui joue au hockey et qui était la mascotte du championnat du monde de hockey en 2012, donc Hockey Bird.
Si j'avais réussi à réprimer ce souvenir.
Qui est un partenariat entre la direction du championnat du monde et Rovio.
Parce que c'était genre en Suède ou whatever.
Ouais, quelque chose comme ça. C'est aussi une source d'inspiration pour un livre sur la spiritualité qui s'intitule...
Pitchez vos émotions porcines.
Qui s'intitule Angry Birds... Ça va?
Non!
J'ai pas fini. qui s'intitule Angry Birds Yoga, How to Eliminate the Green Pigs in Your Life.
Oh, sacré.
C'est aussi une opinion des animateurs de la radio de Québec. Hein? Les Green Pigs.
Non, mais sont quelle couleur les sous des agents de la SQ? Hein? Oh. C'est une question, les gars. C'est pas un jugement de valeur. Là.
j'ai cherché pour essayer de le trouver, voir si c'est disponible sur les bookstores ou sur Amazon. Tout ça. Malheureusement, non. Mais si on écrit le nom du livre, on arrive directement sur le site de l'auteur qui essaie de nous vendre sa philosophie à 5 cents. Il y a même les premiers chapitres du livre qui sont disponibles si vous voulez vous inspirer.
Pour 5 cents, je
dans la série, ouais, eux autres font bien de l'argent, m'ont essayé de vendre mon livre avec une phrase qui veut rien dire.
Ouais, c'est... Il marque des points.
Ouais, écoute...
Il y a un futur segment à faire avec ça. On
va l'acheter, on s'en un beau petit fou rire. Puis, merci finalement pour le Angry Bird Yoga.
Quand même. Mais tu sais, un tel succès mérite aussi son propre scandale. Edward Snowden a affirmé en janvier 2014 que le jeu présentait une faille de sécurité qui pouvait être utilisée pour transmettre de l'information sur les usagers tels que leur affiliation politique, leur orientation sexuelle et leur état matrimonial.
Hein?
Donc, Angry Birds a tout pour lui.
Mais il va s'en dire.
Je fais mes recherches et Google définit un classique comme étant une œuvre... Une œuvre jugée sur une période de temps pourrait être de la plus haute qualité et qui se démarque dans son genre. Mais Angry Birds, c'est selon moi un classique indéniable du gaming moderne. Les jeunes d'aujourd'hui vont peut-être même s'en souvenir avec nostalgie, de la même manière qu'on se souvient un petit peu de Mario ou de Link, finalement. Peut-être même qu'un jour, on va trouver un vieux Nexus One avec la version originale d'Angry Birds dans un arcade rétro.
Alors, pour ceux qui sont encore là, ben on a le segment de Dan.
Oh, je vais parler encore plus dans le vide que quand j'en ai un cours.
Non, pas tant que ça.
C'est au moins vous avez, j'ai au moins vous deux. Dans le dernier pod, j'ai parlé que je m'étais pogné une bunch de jeux là, dans des bundles, puis que j'allais vous en rejaser. Hein, puis il y a un de ces jeux-là, en fait, qui est pas mal le seul jeu auquel j'ai joué dans les deux dernières semaines. Là. Mathieu me le faisait remarquer. Là. Lui, il est dans son univers virtuel, puis il voit à quoi je joue sur Steam. Donc, chose promise, chose due, c'est un de ces jeux-là là, dont je veux vous parler. Le jeu dont je vous parle a été décrit par son développeur lui-même, oui, comme un clone d'un jeu dont j'ai déjà parlé.
Oh my god, la porno base! Faisait longtemps!
Donc, Gunpoint, pour ceux qui ont reconnu. Oui, bon, je reviendrai sur cette question de rip-off-là. Là. Ouais. Donc, ce rip-off-là, mettons des gros guillemets, là, parce que c'est l'auteur lui-même qui le dit.
C'est hommage.
C'est le jeu Ronin. Ben, je laisse pour l'instant rip-off, j'y reviens. Ce sera ma conclusion. Ronin, ce que c'est un jeu indépendant, en fait, publié par Devolver Digital en 2015, qu'on pourrait décrire là, comme un platformer d'action au combat tour par tour. En fait, c'est l'histoire là, d'une jeune fille dont le père est mort dans des circonstances inconnues, puis qui veut venger la mort de son père en tuant ses 5 anciens associés, qu'on peut voir sur une photo là, dans le jeu, puis ces 5 associés-là seraient responsables de sa mort. En gros, c'est pas mal
l'étendue de
l'histoire du jeu. En avançant dans le jeu, dans le fond, là, ce qu'on fait, c'est qu'on cherche des indices sur l'endroit où vont se trouver là, ces 5 personnes-là, puis les assassiner une par une. C'est le but du jeu.
C'est concis.
Oui, mais en fait, c'est correct aussi parce que le plaisir de jeu-là se situe vraiment dans le gameplay. Là. Donc, visuellement, quand on part le jeu, on se retrouve sur une vue en coupe d'édifices là, dans lesquels on va retrouver des ordinateurs. Puis c'est dans ces ordinateurs-là qu'on va aller chercher l'information, les indices ou les cibles là, qui sont à tuer dans les buildings. Hein, pour ceux qui ont joué à Gunpoint, ben, visuellement, c'est quand même assez semblable. Puis c'est du premier coup d'œil, c'est là qu'on pourrait se dire, voyons, ils ont copié le jeu. T'sais. Ensuite, dans le fond, dans le jeu, ben, on a notre personnage, Ronin, qui est la fille, justement, là, dont qu'on peut voir sur la photo comme qui est tout petite, puis là, qui est rendue adulte, qui est habillée tout en noir avec un full face de moto rouge, puis qui se promène dans les édifices là, en faisant des sauts impressionnants, des sauts qui peuvent pas nous blesser, là, un peu comme dans Gunpoint aussi. Fait que là, je fais un peu là, les parallèles, mais après ça diverge pas mal. En gros, elle bouge comme un ninja, elle se bat avec une katana qu'elle trouve sur un cadavre dans les premières 3 secondes du jeu qu'elle trouve par terre. Puis on se promène dans les tableaux en temps réel. On peut sauter, s'agripper après les murs. On a même un grappelin là, avec une corde qui peut nous aider à atteindre d'autres endroits. Puis c'est l'aspect platformer, si on veut, de ce jeu-là. On avance, puis quand il y a un ennemi qui nous voit, ben, l'écran fige. Le jeu tombe sur pause. Puis c'est là qu'on embarque dans le mode tour par tour. À ce moment-là, ben, on peut continuer à faire des sauts pour se déplacer, mais on ne peut pas juste bouger là, en se déplaçant... C'est juste avec les flèches, si on veut. On doit comme prévoir nos mouvements puis nos actions en regardant ce qui se passe dans le jeu. En fait, on voit ce que les gardes qui nous ont vus, eux autres aussi, vont faire. Les gardes vont généralement là, nous tirer dessus. En fait, c'est à peu près tout le temps ça. Fait que quand le garde nous tire dessus, ben, on voit une ligne rouge, une espèce de laser, si on veut, là, qui nous montre la trajectoire de la balle qu'il va avoir. Ça nous donne l'idée que si on se ramasse dans la trajectoire de la balle, ben, on va la manger. T'sais. Fait que ça nous permet de tout prévoir notre tour comme ça. On peut voir aussi s'il y a un ennemi qui recharge son arme. Là, il va avoir un petit chiffre en haut de sa tête pour dire pendant combien de tours il ne pourra pas nous tirer dessus, pendant combien de tours il ne pourra pas nous agir là, s'il est stunné ou quelque chose comme ça. Donc, on a comme de l'information sur ce qui va se passer dans notre tour. Puis nous, on peut comme prévoir notre tour. Fait qu'on peut sauter ou mettre une action. Niveau du combat, là, vraiment, c'est un système qui est super intéressant. Puis je me rappelle pas avoir vu ce genre de système-là ailleurs avant. Il y a un côté très, très tactique, un côté où tu dois faire comme, tu sais, prévoir, mais pas prévoir juste ton tour-là, mais prévoir plusieurs tours d'avance. Parce que si tu jumpes à une place, tu vas peut-être être correct, mais quand tu es dans les airs, tu peux pas comme changer de trajectoire trop, un peu avec ton grappin qui te permet de suivre une courbe finalement. Mais si tu prévois pas trop d'avance, tu peux te ramasser à une place où est-ce qu'il va y avoir 8 gardes qui vont te shotter dessus en même temps, puis là, ben. C'est ça. Fait qu'il y a comme ce côté-là de très, très stratégie, très, très tactique, où il faut que tu prévois beaucoup d'avance. Ben, beaucoup d'avance. Au moins une couple de tours d'avance, surtout dans les derniers tableaux. Mais c'est mélangé aussi avec un petit aspect de skill, parce qu'il faut que tu sois capable d'être précis avec tes sauts pour être capable d'enligner tes sauts où tu veux vraiment aller. Parce qu'un petit manque de précision peut t'amener pas où est-ce que tu veux aller. Puis bon, je reviendrai sur le petit détail tantôt, mais c'est un peu ça. Fait qu'il y a un gros côté très, très tactique.
Mais moi, juste comprendre, dans le fond, qu'est-ce qui fait passer le jeu au tour suivant?
Quand tu rentres ton action, mettons que tu dis, OK, je vais sauter jusqu'à ce place-là, quand tu lâches le bouton, mettons, de flèche pour te faire sauter ou que tu appuies sur un bouton pour une action, là, le tour se fait.
OK, fait, c'est pas... C'est toi qui génères les tours par tes actions, finalement.
Ouais.
OK, OK.
Tu payes supplé en choisissant ton action.
En gros, c'est ça. De toute façon, je vais revenir un peu tantôt avec les d'autres actions, là, parce que c'est vraiment là, l'essentiel du jeu. Là. J'essaie de faire un survol. Là. Dans le fond, à chaque mission, tu as un objectif qui va le trouver, là, 2, 3, 4, 5 ordinateurs, souvent, pour avoir les indices, pour trouver une des cibles, ou tu as réussi à la trouver la cible, puis tu as la cible qui est là, puis tu veux la trouver, aller la rejoindre, puis la tuer. Dans chaque tableau, tu as aussi deux missions secondaires qui sont toujours les mêmes. Là. Tuer tout le monde, puis éviter que l'alarme soit déclenchée. Dans le fond, l'alarme, pour qu'elle se déclenche, il faut qu'il y ait un garde qui te voit, puis qui te perde de vue après ça pendant comme 9 secondes. Ah. Puis là, ben, à ce moment-là, il y a une alarme qui se déclenche, tu fails ta mission secondaire, mais il y a aussi, je pense, qu'il y a des portes qui se barrent automatiquement, puis tout ça. Là. Je vous dirais que je suis pas tellement certain parce que je m'arrangeais tout le temps pour pas que ça se fasse, que ça se passe, pas parce que je suis si bon que ça. Là. Des fois, je recommençais juste à cause que ça failait, puis je voulais vraiment... avoir mes missions. Là. Il y a un petit côté de complétionniste qui embarque dans ce jeu-là que j'ai pas tout le temps dans tous les jeux, mais dans celui-là, c'était présent. Donc, dans les édifices, tu as des gardes qui sont là un peu partout, puis eux, ils se posent pas de questions. Là. Ils tirent à vue. Ils te voient, ils tirent. Ben, mettons, ils te voient, le tour d'après, ils vont te tirer, parce que souvent, ils te voient, ben là, le jeu va figer. Toi, tu peux faire une action avant même qu'ils puissent agir, parce que là, le temps qu'ils te tirent, ça donne un peu de marge. Là. Dans le fond, tu as... une certaine variété là, au niveau des gardes. Tu as les gardes de base, là, les gens qui sont en costume, cravate, qui ont un pistolet, là, un fusil là, qui tire une balle par tour. Tu as d'autres gardes qui ressemblent aux gardes de base, mais qui ont une genre de grosse visière rouge là, à la Cyclops, quasiment, là, qui, eux, dans le fond, ont pas de fusil. Mais dès qu'ils te voient, ils commencent à déclencher l'alarme. Fait qu'eux, ben, ils te voient, tu as 9 secondes pour t'en occuper.
Ça représente-tu 9 tours?
9 tours. Okay. Ou si le jeu retombe en mode free, là, parce que, mettons, tu te sauves puis il n'y a plus de garde qui te voit, mais le jeu se débloque, si tu veux, puis tu retombes en mode là, où tu peux te promener. Là, ça tombe en seconde. Tu as des gardes avec une mitraillette. Eux, quand ils te voient puis ils commencent à tirer, ils tirent en continu pendant comme 2 ou 3 tours, là, dépendant, là, je ne suis pas certain. Bref, tu sais, c'est pas juste « OK, il y a une balle qui va passer, le tour d'après, je suis correct. » Eux autres, c'est si tu traverses où est-ce qu'ils sont en train de tirer, ben tu te fais mitrailler. Puis tu as une espèce de garde élite. Eux, ils tirent pas. Ils ont une épée. Puis la trajectoire que tu vois, ben c'est eux qui la font avec leur épée. Genre, c'est comme s'ils se téléportaient puis ils se lâchent, dans le fond, en suivant leur trajectoire. Ils sont chiants, là. Ils sont vraiment chiants. En gros, pour les battre, tu peux pas, genre, sauter sur eux autres puis, tu sais, les stunner, là. Faut vraiment que tu sois à côté pour les frapper avec ton épée. Pour ces gardes-là. En général, les gardes, en fait, pour les tuer, il faut que tu sois à côté d'eux autres, puis tu seras avec ton épée. C'est une des actions que tu peux faire dans le tour, puis quand tu fais cette action-là, ben, ça te prend ton tour, ça fait une action.
Puis y a-tu, tu sais, dans les encounters, dans le jeu, quand tu rencontres les ennemis, y en a-tu plusieurs dans l'écran ou c'est un à la fois?
Généralement, y en a plusieurs.
Ok, fait, probablement que rapidement, tu te ramasses avec un écran qui est rempli
de lignes rouges. Ouais. Tu sais, c'est sûr qu'il y a une progression là, au début du jeu, t'en as un ou deux, puis à deux, ça gère assez bien parce que bon, tu peux sauter sur un ennemi, puis ça va le stunner si on veut, ça le fait tomber à terre. Fait que là, t'as une couple de tours, un tour pour qu'il se relève, ou fait que pendant ça, là, tu pourrais réussir à en pogner un autre, puis réussir à le tuer. Ou bon, fait que rapidement, au début, t'as quelques ennemis. Puis je reviens tantôt, là, mais aussi, tu vas débloquer des habiletés aussi qui vont te permettre d'être un peu plus comme destructeur. Là. Tu deviens pas une machine à tuer là, qui va mitrailler toi aussi, mais il y a des trucs qui vont te permettre d'être beaucoup plus stratégique dans tes choix. En gros, c'est ça, là, parce que les gardes, tu peux sauter dessus pour les stunner, mais pas les élites. Eux, si tu fais ça, ils dégainent l'arme et ils te slash d'un coup, là, style samouraï. Là. Fait qu'eux autres, si tu essaies de sauter par-dessus eux, c'est pareil. Si tu passes trop proche, ils te slash. Fait qu'il y a vraiment plus de... T'sais, pour les frapper, il faut vraiment que tu sois à côté d'eux, à terre, pour réussir à frapper un premier coup. Ça va faire qu'ils vont comme reculer puis tomber à genoux. Puis pendant qu'ils sont à genoux, là, faut que tu retombes à côté d'eux, puis là, tu peux les tuer. Là. Fait qu'ils ont une...
Ils te demandent beaucoup de ton attention.
Ils te demandent beaucoup de ton attention.
Mais je trouve ça cool comme mécanique, parce que ça veut dire que c'est, comme c'est tour par tour, puis ça l'arrête. Tant que si tu touches à rien, le jeu n'avance pas.
Avance
le
pas,
jeu
t'attend. T'attends de réfléchir. Là.
Ben ça, puis tu peux contempler le,
oh, oui,
le chaos dans lequel tu viens de te retrouver, finalement.
Ouais, des fois, tu sais comme... Bon. petit truc, mettons, pour les gardes élites, là, du gars que... quand même pas mal joué dans les dernières semaines. C'est toujours amusant de t'arranger pour qu'ils se lâchent au travers d'une fenêtre parce qu'ils vont se lâcher où t'étais le tour d'avant. Là. Fait que si tu t'arranges pour être devant une fenêtre puis de continuer à tomber, eux vont se lâcher au travers de la fenêtre. Puis eux autres, ils survivent pas à une chute de quelques étages.
OK, bye-bye.
Fait que j'ai découvert ça dernièrement. Je suis comme, ben ça règle des problèmes.
Fait que ça aussi, c'est inspiré de Gunpoint.
Il y a un petit quelque chose de Gunpoint là-dedans aussi. De notre côté, à nous, là, comme joueur, on n'a pas de point de vie. Tu manges un coup, tu meurs. Tu manges une balle, tu meurs. Tu te fais slasher une fois, tu meurs. Il n'y a pas... bon, à part pour une petite mécanique, mais j'en parle même pas parce que c'est dans le dernier tableau du jeu, puis c'est intéressant de voir comment ça se déroule s'il y en a qui jouent. Mais en général, un coup, tu meurs. Il y a un système de points de sauvegarde, de checkpoint, si on veut, là, qui fait que quand on meurt, on repart au dernier, puis c'est très, très rapide. Il n'y a pas vraiment de loading screen. Fait que, bon, on ne sait pas où est-ce qu'ils sont, par exemple. Là, bon, généralement, quand tu fais une coupe d'action, tu claires une salle importante ou tu prends un ascenseur ou quelque chose de même qui te déplace d'un bout à l'autre de la carte, tu as un petit checkpoint qui va être là, puis quand tu meurs, ben, tu recommences là, puis c'est très rapide. Fait que, tu sais, le jeu est fait quand même pour que tu meurs relativement fréquemment, puis que tu reloads. Là.
Et c'est erreur.
Beaucoup. Parce que ça doit être tour par tour, puis avoir un petit côté de... Bon, tu sais, il y a un petit aspect un peu random dans tout ça, parce que ça reste, tu sais, des actions qui vont se faire après ça. Une fois que tu pèses le bouton, là, toutes les actions se font en même temps. Fait que c'est pas tout le temps la même... C'est la même séquence d'actions qui va se passer, mais mettons, commencer une pièce va souvent être les mêmes actions parce que les ennemis sont à la même place et ils réagissent de la même façon. T'sais. Fait que tu peux prévoir le début d'un combat, à un moment donné, ça devient bon, un peu plus dur à prévoir, puis là, tu réagis plus que tu prévois. T'sais. Mais la mort, ben, comme je dis, elle n'est pas très punitive, tu recommences puis c'est rapide. Vraiment, c'est un peu fait pour ça. Là. Comme je disais tantôt au début, l'arsenal est très limité, mais à chaque fois que tu finis une mission, puis je crois que ça te prend les deux bonus dans la mission quand tu l'as fini pour avoir un genre de point de skill, un point de compétence que tu peux après ça investir dans une genre d'arborescence qui est là. C'est une arborescence, là, j'appelle comme ça, mais en même temps, tu es très très libre de où tu commences puis où tu t'en vas dedans. Fait que, tu peux décider de partir une place ou l'autre, te concentrer plus sur certaines compétences, puis à la fin du jeu, tu les as toutes de toute manière.
Oh, OK.
Fait que tu vas pas te barrer de certaines compétences, tu vas finir par les trouver, mais ça peut te permettre de voir un peu par où passer. Puis la première fois que tu joues, tu fais pas nécessairement les meilleurs choix, je me suis rendu compte que ce jeu-là n'a pas de cloud save sur Steam, là, de sauvegarde là, qui font que tu peux repartir sur une autre machine puis repartir où tu étais. Je m'en suis rendu compte quand je n'étais pas chez nous. Genre, on m'a continué ma game puis bon, je ne peux pas.
On recommence.
Mais j'ai recommencé un peu pareil. Je joue une petite demi-heure parce que j'aime beaucoup le jeu. Puis j'ai comme choisi d'autres skills au début parce que je me suis rendu compte, OK, ce skill-là est vraiment plus efficace en termes de tactique. Puis bon, les habiletés vont nous permettre de, entre autres, lancer notre épée à distance. Fait que là, tu lances ton épée sur un garde qui est loin. C'est la seule attaque de distance vraiment que tu peux avoir.
Faut-tu que tu retournes la chercher?
Faut-tu retournes la chercher.
Ah, c'est que c'est hot.
Mais tu peux avoir un autre skill plus loin qui te permet de la faire revenir à toi. Puis si elle accroche quelqu'un en chemin, ben ça le tue.
Mais ça me fait me demander, est-ce qu'il y a moyen de revoir le combat en temps réel?
Comme un replay de
je sais pas, c'est une bonne
ça
question.
Ça serait écœurant les balais que ça doit donner, là.
J'ai pas regardé, je pense que non, mais...
Genre un replay du tableau tout en temps réel.
Tout d'un coup, là, tu sais, ça... Ouais.
Des scènes coordonnées à la John Woo rendues là, là.
j'ai pas vu ça, les options. Je cherche dans ma tête, puis je pense pas avoir vu ça, mais c'est vrai que ce serait écœurant. Mettons qu'on pourrait proposer aux développeurs. On peut aussi, là, lancer des shurikens qui vont stunner tous les ennemis d'un coup. Fait que quand il y a comme trop d'ennemis, tu peux réussir à... Tu sais, t'as replacé un petit peu. Laisser tomber un hologramme qui sert de diversion. Pendant comme une coupe de tour, ben, les ennemis vont tirer sur lui à place de sur toi. Fait que ça te permet de peut-être de te replacer. Même plus tard, tu peux te re-téléporter à cet hologramme-là. Tu peux tuer des ennemis là, sans être vu là, quand t'es pas en combat. Puis t'es en haut d'eux autres au plafond. Là, encore là, un peu comme dans bien des jeux, là, style Batman ou peu importe. Là.
Mark of the Ninja, des trucs comme ça.
Okay, j'avais vu quelqu'un je pense, sur Internet qui appelait ça Mark of the Gunpoint. Puis même de te téléporter sur un autre ennemi directement, qui est à l'autre bout de la pièce, pouf, tu téléportes dessus, ça le fait voler.
Ça le knock out.
Ça le knock out. Puis là, ben, tu sais, ça peut te permettre de faire des combos assez pas pires si les autres te voient pas. Pour utiliser tes habiletés, il y a un système de points, genre de combo points que tu accumules en frappant ou en tuant des ennemis. Quand tu frappes un ennemi, ça donne un point. Quand tu en tues un, ça donne deux points. Puis là, dépendant des habiletés, ça te prend un, deux ou trois points en banque pour les utiliser. Puis quand tu te déplaces, quand tu fais une action, ça t'enlève un point tout le temps. Fait que tu joues un peu avec ça. OK, je veux réussir à avoir mes trois points pour me téléporter. Ben là, quand tu te téléportes, ça prend tes trois points. Fait que là, si tu te téléportes sur un ennemi, tu le frappes, ça donne un point. Si tu le tues, ça te redonne deux. Fait que tu peux comme faire une suite de téléports si tu t'aimes bien tes affaires.
Une stratégie. Cool,
fait qu'il y a comme de la stratégie. En même temps, s'il y a quelqu'un qui te voit, ben là, tu pourras pas tuer l'ennemi qui te vient de stunner parce qu'il te tue.
Ça me fait penser à dans Splinter Cell Conviction, quand faut que tu ramasses tes points pour pouvoir faire des. Ben, j'oublie le nom qu'il leur donne, mais que tu. Tag des ennemis, puis tu pèses un bouton, ça les tue instantanément. Mais tu le sais que quand tu vas tomber sur lui, tu vas avoir les points qui sont nécessaires. Fait que tu pré-tag des ennemis, tu tombes à terre, tu déclenches le skill. ça, ben, c'est ça. Tu planifies bref ton.
Ben, c'est ça, je dis, c'est ce que j'avais écrit. C'est, ça rend vraiment plus stratégique les combats quand tu as des habiletés. OK, je vais faire ça pour pouvoir avoir mes points, pour pouvoir faire ça. Ou là, il y a vraiment trop d'ennemis. Fait que je vais sauter là, je vais tirer mon shuriken sur tout le monde. Puis après ça, je vais pouvoir aller pogner lui. Puis il faut pas que j'oublie de stunner le gars qui déclenche l'alarme parce que lui, t'as beau tirer contre partout, lui, il déclenche l'alarme. T'sais. Fait qu'il y a un petit côté très, très intéressant. Puis les combo points, quand tu te rends à 5, c'est on va appeler ça encore une fois un hommage. Ils ont appelé ça Limit Break. Ça drip de tes combo points, mais le temps, il passe pas, puis t'as comme un genre de free turn, si tu veux. Là. Tu rejoues tout de suite. Je dirais que je m'en suis pas beaucoup servi parce qu'en général, les habiletés sont plus intéressantes en termes de gagner du temps que de rejouer un deuxième coup. Ouais,
que juste un tour.
Mais, juste parlant de la fonction là, de rejouer là, les scènes, là, elle n'est pas disponible. J'ai fait une petite recherche okay. sur les communautés, sur Steam. Il y a beaucoup de gens qui posent des questions et qui demandent si un jour ça va live. J'ai pas trouvé de réponse des développeurs, mais c'est mais pas c'est... présentement disponible dans le jeu.
Parce que,
un peu déçu parce que ça serait vraiment.
J'avoue, là, ça serait. Écoute, je me serais juste retapé tous mes combats chez nous. Là.
Tu te rendrais compte que ton playthrough du jeu est extrêmement court.
C'est clair.
Tout est bout à bout.
Quand tout est bout à bout, c'est une affaire de 10 minutes. Puis comme je disais tantôt, quand on est dans ce mode-là tactique, là, ben on voit toutes les options qu'on peut faire, t'sais, selon les habiletés qu'on a ou tout ça. Ben, je dis toutes ou presque, là, parce qu'on me rendait à la fin du jeu, des fois, tu as beaucoup d'habiletés, il y a beaucoup d'ennemis. Fait que ça se peut que le gars qui est l'autre bout, c'est une plateforme, tu veuilles te téléporter à lui, mais tu ne peux pas parce qu'à un moment donné, il y a une limite de boutons sa manette, fait qu'ils ont mis une limite d'action que tu peux faire. Là,
ouais, ça guide le design du jeu.
Ben c'est ça. Donc, il y a quand même beaucoup, beaucoup de possibilités. Puis tu les vois, fait que ça te permet de prévoir tes tours. Faut faire attention, là. Puis ça, c'est un truc que des fois, des gens ressortaient, c'est que les boutons sont pas toujours les mêmes pour les mêmes actions, étant donné qu'ils vont remapper les boutons selon les actions que tu peux faire. Là. Fait que c'est pas tout le temps A qui te fait te téléporter ou B qui te fait tirer ton épée. Fait que à faire attention pour pas faire un move que tu voulais pas faire. Ça m'est arrivé de temps en temps de faire « Ah, je pense que c'est le right trigger, mais dans le fond, c'était le right button. » Puis là, tu fais « Shit, je viens de pitcher mon épée à quelqu'un qui est à l'autre bout de la salle au lieu de tirer des shurikens sur tout le monde. Bon, je pense que je suis mort. » Mais le combat, c'est vraiment, vraiment là, la partie la plus fun du jeu. C'est vraiment trippant. Je pense que vous entendez mon excitation quand j'en parle.
On la voit aussi.
Ah, oh, mon Dieu.
Elle était facile, je l'ai setupé. Petit point négatif, par contre, là, la précision n'est pas toujours parfaite. Puis ça fait mal un peu au jeu, surtout au niveau des trajectoires. Tu dis, OK, je vais me rendre là. Puis là, tu fais attention pour viser à la bonne place. Puis là, ah, des fois, tu arrives un petit peu à côté de ce que tu avais visé. Puis là, au lieu d'être sur une plateforme où ce que tu es safe, tu es en plein milieu de te faire tirer. C'est pas fréquent. C'est pas arrivé très souvent. Mais les fois que ça arrive, c'est comme... un petit grognement, tu sais. Puis c'est un des points négatifs qui ressortent quand même aussi quand tu regardes un peu sur les jeux. Puis il y a des gens qui enlèvent beaucoup plus de points que moi à cause de ça. Moi, je me dis, bon, hein, cette fois-là, je suis mort à cause d'une petite erreur de trajectoire. L'autre fois, je suis mort parce que je me suis trompé de piton. À un moment donné, là, on passe à autre chose.
Surtout quand ça te punit pas plus que ça.
Ben, c'est ça. T'sais, des fois, c'est pénible parce que t'as fait comme... T'as réussi à tuer 8-9 gardes. Pis c'est... Ben, en fait, c'est rarement vers la fin que la petite erreur de trajectoire va te punir à ce point-là aussi, là.
Je pense que le temps que tu as passé à en jouer, c'est un bon gage de
oui.
que le jeu est quand même intéressant.
Tu sais, c'est ça. Fait que ça a l'air comme un peu complexe quand j'en parle, tout ça, mais en même temps, c'est très, très instinctif quand on commence à y jouer. Puis on comprend rapidement, OK, je vais faire ça, je vais le sommer, je vais le frapper, puis tout ça. Puis le gameplay, il est addictif. Là. Je peux pas dire autre chose que ça. Je me suis couché beaucoup trop tard une couple de fois la semaine passée parce que ben, j'avançais tranquillement dans un tableau. Je faisais une section, puis que j'ai fini par réussir à la faire. Puis là, t'as une autre section. Genre, je vais réussir, là, j'ai tout fait l'autre avant. Puis, genre, oh shit, il est rendu minuit et demi. Bon, okay, je travaille de même. Tu sais, en même temps, j'avais le goût de continuer. J'avais le goût de faire un autre tableau. Puis là, tu fais, ah, il est tard. Hein? Ah, mais un autre, ça sera pas long. Mais c'est pas vrai que ça sera pas long. Parce que, tu sais, ça te prend quand même des coups pour voir un peu comment ça va se placer quand les gardes réagissent. Voilà. Donc, malgré le look du jeu, là, on pourrait avoir l'impression que c'est un jeu de stealth, un jeu d'infiltration. Puis le jeu nous le rappelle lui-même que c'est vraiment pas ça. C'est vraiment un jeu de combat. En même temps, ben, tu peux aussi réussir, avant que le combat parte, à enlever une coupe d'ennemis, justement, en infiltrant, en te promenant au plafond, en faisant une coupe de kills comme ça sans qu'ils te voient. Donc, c'est pas une mauvaise idée de réduire le nombre de dudes qui te tirent dessus. Là. Mais le jeu n'est pas centré autour du stealth. T'sais, contrairement à Gunpoint, justement, où c'était vraiment un jeu d'infiltration, un jeu de stealth, puis de puzzle. T'sais, lui, c'est un jeu de combat puis de tactique. Fait qu'au gameplay, ben voilà, c'est vraiment accrocheur. L'histoire est là mais est minimale, mais elle nous guide. Puis tu sais, c'est le fun parce qu'à chaque loading screen, t'as la photo là, avec le monde qui sont dessus. Puis là, tu sais pas trop lesquels que t'as à tuer dans le cas. Puis là, t'es rendu à telle cible, il y en a un qui est entouré. Ah, tu l'as tué, il y a un X. Puis là, tu finis par comprendre, OK, moi, je suis la fille qui est là. Puis ça, c'est mon père OK? Mais il y a beaucoup de sous-entendus. Je dirais là que finir le jeu la première fois, 8-9 heures peut-être.
Quand même.
Tu sais, puis j'ai recommencé des bouts souvent, surtout parce que je m'entêtais là, à vouloir finir les objectifs optionnels. Puis des fois, l'alarme fait chier. Tu sais, je dis, ah fuck, c'est vrai, là, t'es en train de tuer plein de monde dans un coin de la pièce. Il y a un doute à l'autre bout de la pièce que t'as oublié. Puis ils te le disent, c'est super bien indiqué. C'est vraiment juste parce que moi, j'ai oublié qu'il y avait un doute en train de faire l'alarme. Je dis, bon, l'alarme. OK, je vais reloader parce que je veux le faire au complet. Voilà. Fait que là, tu finis le jeu. T'as deux fins au jeu. Moi, j'ai vu la fin, la happy ending, je pense, là, où est-ce que mon personnage finit le jeu.
Bref.
Voilà, je veux pas trop en dire parce que si quelqu'un veut jouer, c'est peut-être la seule affaire du jeu que tu pourrais te faire spoiler. Fait je le ferai pas.
Je serais gentil.
Fait qu'en finis, tu finis le jeu, puis ah, tu reviens au menu principal, puis pouf, une nouvelle option qui apparaît. L'option New Game Plus. Hey, j'en profite pour faire un suivi. Donc, parler de New Game Plus, là, on se demandait la semaine passée si c'était Chrono qui avait inventé le mode, le terme, quoi que ce soit. Là. Selon ce que je lisais, Chrono Trigger aurait été peut-être le premier jeu à utiliser le terme. En tout cas, ou à l'utiliser aussi clairement que ça. Mais il y a d'autres jeux avant qui avaient le même genre de gameplay. Là. On parlait de Legend of Zelda, en fait, qui a un mode où tu peux recommencer plus difficile. Puis Ghosts and Goblins aussi. Donc, il y a beaucoup d'autres jeux qui avaient ce mode-là où tu recommences puis c'est plus difficile. Fait qu'il y a des modes qui te font recommencer le jeu. Mais en appelant New Game Plus, ça serait pas mal Chrono Trigger qui aurait commencé.
C'est la même chose que j'ai trouvé, puis de plusieurs sources.
Donc, dans Ronin, le mode nous permet de repartir le jeu avec toutes les habiletés qu'on a débloquées. Donc, si tu as fait les trucs comme il faut, tu aurais toutes les habiletés de toute façon. Puis le niveau de difficulté augmente, mais d'un solide cran. De ce que j'ai pu remarquer, parce que j'ai cherché de l'information, puis il y en a quand même assez peu sur ce jeu-là là, qui explique en détail ce que c'est. De ce que j'ai remarqué de ma propre expérience, les ennemis, il y a l'air d'en avoir un peu plus, ou ils sont un peu plus différents. Fait que dans un tableau, au lieu d'avoir juste des gardes de base, ben, tu as une couple de gardes avec des mitraillettes qui n'étaient pas là la première fois. Puis ce genre de garde de base-là, en fait, puis la plus grosse différence, plutôt, c'est vraiment ces gardes-là là, avec la mitraillette, qui, au lieu de tirer en ligne droite, dans le mode New Game Plus, ils spray. Puis
ben
ils spray en random s'ils te voient pas, fait que ça se peut bien qu'ils te pognent. Puis s'ils te voient, ben, ils se dirigent vers toi. Là. Fait que tu peux pas te dire, ben, je vais aller là, je vais être correct, je suis en bas du gars, parce que si ce gars-là, c'est un garde avec une mitraillette, il va te rejoindre. Puis des fois, tu te rends pas compte. Tu sais, t'es dans un bout de tableau, tu vois tes lasers rouges, tu y penses pas, tu penses pas à aller vérifier c'est quel genre de laser rouge. Ben là, il te mitraille ça, puis tu Fait que il y a quand même une solide coche de difficulté, puis il y a des gens qui se plaignent à cause de ça. Oh, ça n'a pas de sens, c'est bien trop dur. En même temps, t'as chat pour jouer. Là,
c'est ça, c'est un mode défi. Là.
C'est un mode défi. Là. Moi, je l'ai vu comme ça, puis tu sais, je suis pas. À part pour Chrono, parce que ça, c'est un cas particulier, je suis pas super fan des modes New Game Plus. Je trouve ça le fun, jouer un jeu, ah, c'est cool, il y a un New Game Plus, je vais rejouer. Ben, Ronin, j'ai déjà commencé à jouer au mode New Game Plus. Tout de suite après avoir fini le jeu, ah, c'était le fun, le jeu-là, je vais rejouer encore, puis les tableaux sont.
Tout de suite, là. Genre.
Tout de suite, là. J'ai recommencé. J'ai pas encore fini parce que la difficulté à le monter un solide cran, là. Mais, tu sais, c'est vraiment intéressant. Fait que ça donne. Tu sais, moi, j'apprécie de le refaire avec ce niveau de difficulté-là qui est vraiment tough. C'est un beau challenge. Et tu sais, les salles deviennent encore plus des puzzles à résoudre, là, plus que juste du gros combat. Puis, je trouve que ça donne quand même une belle profondeur à ce jeu-là, cet aspect-là là, de tactique puis de réflexion. Niveau atmosphère, la musique intéressante, pas particulièrement spéciale, assez répétitive, mais sans non plus trop taper ses nerfs. Là. Il y en a une en particulier qui est weird, qui est celle d'un club qui s'appelle Sword Point. qui est hyper dubsteppy. Puis la première fois que je jouais au jeu, j'avais les écouteurs quasiment qui cancellent le son. Là. Puis ça me buzzait dans les oreilles tellement. Mais tu sais, à part celle-là, puis dans des écouteurs comme ben ben collés, c'est correct. Là. Et là, ça donne l'ambiance. Mais il y a un truc. Il y a une affaire vraiment très drôle qui se passe dans le jeu quand tu es dans un tableau puis tu rentres dans un ascenseur. Fait que vous avez un petit bout d'atmosphère de musique du jeu puis le bout d'ascenseur. Il y a des ascenseurs qui sont quand même très très longs. Il y en a qui te font descendre comme dans le fond d'un sous-sol, puis t'as le petit tout le long, c'est tes cœurs.
C'est une bonne touche, hein, c'est cool.
Bon, ouais, c'est amusant. Puis il y en a qui n'en ont pas aussi, il y a des ascenseurs qui ne l'ont pas, là, mais c'est un beau petit clin d'œil. Je finis en revenant sur mon point initial, hein, le fait que Thomas Waklavec, là, qui est le développeur du jeu, dise lui-même avoir voulu plagier Gunpoint. Ben, Tom Francis, hein, le créateur de Gunpoint, on se rappellera. a répondu à l'auto-condamnation du gars. En gros, il dit que oui, visuellement, c'est vrai que c'est similaire. Puis que oui, le contrôle est très, très semblable. Je n'ai pas vraiment parlé de contrôle, mais quand tu joues avec clavier-souris, c'est avec la souris que tu vas pouvoir setuper tes jumps. Moi, j'ai beaucoup joué avec une manette, fait que tu as un joystick qui te permet d'y aller. Bref, c'est les mêmes contrôles que Gunpoint là, pour les déplacements. Puis il dit, ben, il a même fait une vidéo Let's Play où est-ce qu'il essaye le jeu. Puis je vais le citer directement. Là. Il dit, j'ai fait une vidéo Let's Play parce que it's really fucking cool. fait qu'il dit, il dit ensuite là, que c'est vraiment loin d'être un rip-off. Les mécaniques de base sont très, très différentes. Là. C'est très stealth, très puzzle pour Gunpoint, très combat, très tactique pour Ronin. Donc, je trouve ça quand même très drôle que Tom Francis, oui, réponde directement à ça. Il dit que c'est parfait pour lui que le jeu ait repris des mécaniques de saut, les mécaniques de checkpoint, puis quelques-unes des autres mécaniques, là, les fenêtres puis toute la patente. Parce que c'est justement à cause... Il a fait Gunpoint à cause que ce genre de mécanique-là, il trouvait qu'elle n'était pas assez présente dans les jeux. Fait que ça me fait plaisir que quelqu'un ait repris ces mécaniques-là. J'ai rien réinventé là, dans le fond en faisant ça. C'est juste que je les ai peut-être un peu actualisés. Donc, il trouve ça que c'est un beau... c'est une bonne affaire qu'il ait fait ça. Wacklavec répond, en traduction libre ici, « C'est très décevant. J'ai essayé vraiment fort de faire un clone de Gunpoint et il, Francis, dit que c'est pas du tout comme Gunpoint. » Je sais vraiment pas ce que j'ai fait de pas correct. Puis il finissait avec un petit smiley triste. Donc, si vous aimez la stratégie, le combat tour par tour, les graphiques minimalistes, mais vraiment très, très efficaces, je vous suggère fortement Ronin. Puis Gunpoint, là, si vous avez pas de jeu. Donc, ma note, je donne un divan retourné à l'envers pour se faire du cover contre les balles avec trois pattes bien accrochées, mais une qui est en train de lâcher. Good show! Donc, pour trouver les derniers épisodes, on va au divanquest.com. Pour du feedback, du hate mail sur Twitter au twitter.com/divanquest. Sur Facebook au facebook.com/divanquest. Par courriel au divanquest@gmail.com. Le podcast est disponible avec un paquet d'autres podcasts québécois sur le rzweb.com. Aussi encore dans la playlist de PodQuébec au podquebec.com. Allez sur iTunes, commentez, cliquez les petites étoiles. Faites cette semaine comme Simon Lahaye, qui nous a dit bon travail, puis nous a laissé un beau commentaire. Merci beaucoup, Simon. C'est très apprécié.
Merci.
Et on se revoit dans deux semaines.